I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Que j'aime ce moment de l'année. Oh, c'est cette émission, on y est, ça y est, l'émission Café du Commerce. L'émission où on a vu des trucs, on n'y a pas joué, mais on va en parler. L'émission où, en fait, on va parler de choses que vous avez déjà vues, chers auditeurs, parce que vous avez suivi ce qui s'est passé cette semaine. Donc, on est à peu près au même niveau que tout le monde. Mais en fait, on va quand même passer une heure ensemble à discuter
de la
grand-messe du jeu vidéo, de l'E3 2018.
Attention, apparemment, on va en prison maintenant si on dit grand-messe du jeu vidéo.
Carrément.
Certains qui militent contre ce
c'est
terme.
Ça
a été trop usé, quoi. Trop abusé.
Ouais. Mais, parce que...
Ça reste putain de grand-messe du jeu vidéo, hein.
La guerre de Troie, bien mieux.
Les chats, les chats. Hein.
Un raout, c'est bien. Hein, un raout.
C'est ça.
Mais parce qu'on est dans Silence on joue et qu'il faut quand même qu'on parle de choses un peu plus concrètes, nous allons aussi parler de Vampyr, le RPG mort-vivant, action RPG, jeu d'aventure, tout ce qu'on veut, de Dontnod. Et puis voilà, de toute façon, hein, on aura beaucoup de choses à dire. Et je commence d'ailleurs en accueillant deux de mes chroniques favoris, toujours les deux mêmes depuis quelques semaines, et c'est un vrai plaisir. Pas que j'aime pas les autres, hein. Non, il faut mettre
attention.
Mais bon, les conditions actuelles font que cette configuration est formidable. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin des Croissants qui nous accueillent. Merci.
Salut.
Les Croissants. Bonjour Corentin.
Salut.
On va commencer donc du coup. J'ai hésité. Est-ce que en news de la semaine, bah vu qu'on va parler surtout de news après,
ah ouais.
Alors ce qui concerne le 3,
c'est qu'il n'y a pas eu trop d'actu.
Est-ce qu'on allait 3, faire ouais. Un truc sur la rencontre Kim Jong-il Trump, un truc enfin un peu hors sujet, tu vois, pour se garder les jeux vidéo.
Il y a
après.
De quoi dire aussi, hein.
Oui, il y a de quoi dire. Mais en fait non. Donc on va passer directement au com des com de la semaine dernière avec le commentaire de Jérémy Israël qui dit bon bah un épisode où aucun jeu n'est vraiment recommandé, sauf ci, sauf ça. Écoutez pas. De jeu sans avoir envie d'y jouer, c'est top pour ma culture, pour mon porte-monnaie et mon temps libre. Merci.
Il a mal écouté notre critique de Yoku, j'ai l'impression.
Ouais, mais en fait, je pense que c'est. Il n'a pas été réceptif, en
je
fait.
Vois.
Mais vraiment, il conclut vraiment sans être sarcastique, ce podcast me ressemble de plus en plus. Mais oui. Sauf que oui, on a quand même hyper apprécié Yoku hein, la semaine dernière. Et Alien San qui dit concernant Steam, le même jour que l'annonce dont vous traitez, ils ont annoncé aussi donner plus de visibilité aux éditeurs et aux développeurs. Cela se traduit par la possibilité pour eux de faire une page informative dans Steam, chose qui n'existait pas avant. Enfin, il y avait les pages d'éditeurs avec les jeux, avec juste la liste des jeux. Mais ouais. Là, ça leur permet d'exposer plus qu'une liste.
Des fiches d'identité,
comme actuellement. Cette fonctionnalité arrive fin juin, sans doute en même temps que les soldes.
Bah, d'ailleurs, Steam a été mise à jour récemment. Ouais. L'interface a pas mal changé. Donc bon, ça arrive en même temps, je pense.
C'est vrai qu'il y a bientôt les soldes. Bientôt les soldes.
Ouais, là, attention.
Et en fait, dans un autre post, il ajoute quand même, et c'est plutôt intéressant, par rapport à Machiavellan. Alors, il dit, vous m'avez vraiment déçu. Mais en fait, on déçoit vraiment pas les gens. Il explique pourquoi, voilà. En fait, il dit, on a l'impression qu'aucun d'entre vous n'a joué à Prison Architect et surtout Rimworld, dont Machiavellan repompe 80% de l'interface et du gameplay. Rimworld est considéré simplement comme le meilleur jeu de micro-gestion actuellement. Une vraie merveille. Alors, c'est vrai, pour le coup, je plaide coupable. Je n'ai pas joué à Rimworld. J'ai joué à Prison Architecte, mais sans doute pas suffisamment pour... Enfin, j'avais quand même pas mal joué. Mais c'est vrai que j'ai regardé, du coup, Rimworld, et alors là, pour le coup, on est effectivement sur cette interface quasi identique à Machiavellan, hein, avec des minions, enfin, des petits personnages qui... Je crois que c'est de la survie en milieu zombie ou un truc comme ça.
Ça veut pas dire que c'est bien pour autant, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, ça marche pas, après...
Non, mais en fait...
Ce système aurait peut-être pu être encore mieux que de copier RimWorld. Il aurait peut-être pu améliorer ce que RimWorld proposait, j'en sais rien.
C'est, mais alors, le fait est que RimWorld a eu une phase d'alpha. Il est sorti en 2016. A eu une phase d'alpha, et ce qu'explique Alan San, c'est que, grosso modo, Machiavellian, c'est un peu ce qu'était RimWorld dans la phase alpha. Ouais. Il y a eu énormément de mises à jour et de choses comme qui sont arrivées depuis et qui font que c'est quand même un jeu absolument incontournable, en tout cas selon lui, et on le croit sur parole. Bon, alors commençons à parler de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à Los Angeles? Évidemment, c'était le 3. On va commencer à parler un peu de une sorte d'impression générale de cet événement, de ce qui est ressorti de cet événement, des conférences, du pré-E3, de l'E3 en particulier, avec les choses qui ont été montrées après les conférences. On va juste écouter le son de sans doute du jeu qui a un peu roulé sur cette E3. Je pense que vous serez d'accord tous les deux. C'est le Cyberpunk 2.
CD Red Project.
CD Projekt. Merci.
In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, but it's there, just around the corner. And it keeps you going.
Cyberpunk, pour être complet, Cyberpunk 2077.
Et CD Project Red et pas CD Red Project.
Voilà, CD Project Red. Jeu vidéo montré lors de la conférence Xbox, grosse conférence. Enfin, il y a eu EA juste avant, mais historiquement, enfin voilà, c'est la première conférence.
C'était sympa d'ailleurs de l'arrivée de Cyberpunk, avec des bugs graphiques. Je me suis dit peut-être que c'est Watch Dogs.
Pareil, moi je pensais que ça allait être
avec
Watch Dogs 3.
Avec un curseur, du DOS, et puis en fait ils ont balancé.
Alors ce qui est drôle, c'est qu'apparemment les codes, enfin je sais pas, il me semble avoir lu ça sur Twitter, que les codes qui étaient affichés et tout,
j'ai vu ça aussi,
des codes Xbox,
ce qui est plutôt malin,
utilisés.
C'est bon.
Pas mal.
C'était aussi la force, je pense, de Microsoft, c'est qu'ils ont accumulé énormément de choses dans la conférence. Elle était très dense,
elle était bien, pour moi c'était la meilleure,
et ils ont fait fort à ce niveau là c'est-à-dire qu'ils avaient une densité de jeux présentés très très forte,
pas d'exclusivité, enfin de jeux non exclusifs.
Gears of War 5 quand même, Forza.
Il y avait les grosses licences, mais c'est vrai que ce qui est ressorti de cette conférence avec du Just Cause,
en fait,
du Cyberpunk, du Shadow of the Tomb Raider,
Light
et tout 2, ça. Voilà.
Il y avait quand même beaucoup de jeux.
Ils ont réussi à fédérer beaucoup d'éditeurs sur leur plateforme. Et ça, c'était le
Alors,
le
on va commencer quand même avec une impression générale. Le 3, au moment où on enregistre, est en train de se terminer. Donc, on a moins qu'il y ait quelques surprises de dernière minute, mais j'en doute. Qu'est-ce que vous retenez, en tout cas en impression générale, un peu en ambiance, en ce que ça dit sur l'industrie et tout ça, de ce qui s'est passé cette semaine, Corentin?
Je pense que c'est un autre. En ce qui me concerne, j'ai trouvé cette E3 assez peu excitant, mais je pense que c'est pas de la faute des annonces qui ont été faites ou de l'E3 en lui-même, c'est parce qu'on savait tout à l'avance, en fait. C'est vraiment un E3 qui a été éventé des semaines en avance, on avait vraiment très peu de surprises. Finalement, les surprises, c'est les jeux qui ont été éventés, qui n'ont finalement pas été annoncés, comme le fameux Splinter Cell que tout le monde attendait et qui n'a finalement pas été annoncé par Ubisoft. J'ai vraiment eu le sentiment d'un E3 où on était là, ah oui, c'est machin, ah oui, c'est truc, ah oui, c'est Assassin's Creed. L'E3, c'est aussi un petit côté excitation. C'est un petit côté big reveal, il y a un petit côté roller coaster qui n'est pas forcément très profond d'un point de vue philosophie du jeu vidéo ou honnêteté intellectuelle sur ce que devrait être le jeu vidéo ou quoi. Mais j'ai regardé un peu cette E3 passer devant moi comme une vache regarde passer les trains et sans vraiment m'exciter plus que ça. Alors après, on en a discuté un petit peu hors antenne, ça fait plaisir de voir que beaucoup de développeurs ont fait des efforts, notamment pour inclure des personnages féminins dans leur jeu ou des relations. Des love interest un petit peu différents, notamment dans Assassin's Creed où on peut non seulement jouer un personnage féminin, mais en plus il y aura des relations homosexuelles possibles. Donc voilà, ça fait plaisir de voir
BioWare sort de ce corps.
Voilà, c'est ça. Non, mais bon, il y a une prise de conscience. On sent que voilà, il y a eu une année un petit peu riche justement avec tout ce qui a été MeToo, Balance ton porc et compagnie, qui a joué un petit peu dans les têtes de tout le monde. Et ce qui fait que.
Mais ça fait plaisir que le jeu vidéo soit en mesure de réagir et se donne les moyens de réagir aussi. Pendant très longtemps, même beaucoup trop longtemps, le jeu vidéo s'est tenu à l'écart de ces sujets-là, revendiquant une sorte d'irresponsabilité. Hein, c'était un peu leur credo. On est du divertissement, tout ça. Et sauf que, à un moment, comme le cinéma l'a fait, c'est-à-dire qu'il faut aussi
refléter
la société, refléter ces questions, prendre position aussi. Hein, c'est des questions importantes. Et aujourd'hui, c'est vrai que en termes de personnages féminins forts, enfin, c'est-à-dire non sexuellement caricaturaux et ce genre de choses, un peu en dehors des tropes habituelles du média. Et puis voilà, quelques scènes, dont évidemment une des scènes phares de la conférence PlayStation, oui, avec The Last of Us 2,
qui n'a normalement, si les joueurs ont suivi, et apparemment tous les joueurs n'ont pas suivi, mais n'auraient dû étonner personne, puisque Ellie était déjà un personnage ouvertement, au moins, qui avait des intérêts pour les femmes d'un point de vue sexuel, depuis le DLC Left Behind qui était sorti et qui accompagnait depuis 2014 la version PS3 du jeu. Donc, enfin, au bout d'un moment,
mais c'est juste aussi que cette scène, elle est bien mise en scène. Enfin, c'est pour le coup, techniquement déjà, dans les expressions d'Eli qui sont absolument folles, hein, les sentiments qui passent sur son visage, je trouve que c'est très impressionnant. Et puis voilà, il y a quelque chose de réel qui.
Mais moi, je pense que le jeu vidéo a atteint le moment où il a plus peur de ses bases les plus vocales qui peuvent être un petit peu rétrogrades sur certains points.
Les relous,
donc,
quoi.
Il peut y avoir par moment un petit effet de mode du style, on va montrer à ces mecs qui pensent qu'on n'a pas le droit de jouer une meuf dans un jeu vidéo que si en fait on peut, et on va vraiment marquer le coup tous ensemble. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un petit peu, tout le monde a un peu pensé à la même chose au même moment. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de démarche, ça va se rééquilibrer, et j'espère qu'à terme, le fait qu'il y ait un personnage féminin dans un jeu vidéo qui soit un personnage principal ne suscite plus aucun débat, ni pour dire c'est bien, ni pour dire c'est pas bien, mais que ça soit juste normal, parce que c'est normal d'avoir des personnages homosexuels, d'avoir des personnages féminins, d'avoir des personnages de tout type et de toute couleur, voilà.
Et appuyons le fait aussi, et moi je trouve que c'est important, que c'est compliqué de mettre cette évolution là, de ne pas citer les combats qui ont eu lieu ces 3, 4, 5 dernières années, que ce soit Feminist Frequency, Anita Sarkeesian, et que ce soit Zoe Quinn, que ce soit tous les autres, et puis même les débats en France qui ont été nombreux aussi, les débats l'engagement de militants et militantes féministes qui ont vraiment ouvert une voie et posé des problèmes qui étaient invisibilisés avant, qu'on ne voulait pas voir avant. Enfin voilà, si aujourd'hui on a le choix dans Assassin's Creed de jouer une femme ou un homme, c'est compliqué de dissocier ça de la polémique qu'il y avait eu au moment de la sortie de Unity, de ne pas pouvoir jouer un personnage féminin dans le multi.
Après, je pense pas que
les... Il y avait aussi Syndicate, juste après, qui permettait aussi d'avoir le frère
et sœur. Mais c'est cette évolution-là, je pense que c'est pour ça qu'il faut, je dirais pas des polémiques, mais il faut des lanceurs d'alerte, il faut des gens qui disent, ok, là vous faites des bons jeux, maintenant faites des jeux aussi qui prennent en compte ce genre de problème.
Je pense qu'il y a deux choses, à mon avis, ce qui a vraiment été déclencheur là sur cette année, c'est vraiment l'année 2017 qu'on a eu, qui était vraiment, l'industrie du cinéma s'est réveillée, ça a été un séisme mondial, et ce qui fait que je pense pas que les développeurs de jeux vidéo étaient à convaincre sur ces sujets là c'est juste qu'ils avaient peur de leur fanbase, ils avaient peur de pas vendre des jeux, et je pense que même des gens qui tenaient les cordons de la bourse chez les différents éditeurs avaient peur de pas vendre leurs jeux parce que il y avait un personnage féminin ou quoi. Je pense que là, voilà, ils se sont sentis en effet, légitimes à le faire tous ensemble, et l'actualité générale les poussant dans ce sens là je pense que ça a continué à en tout cas inciter les derniers qui voulaient pas trop y aller de peur de se mettre dans, parce que pardon, mais quand on est un éditeur même de moyenne taille ou même de grosse taille, de se dire, est-ce que j'ai les moyens et les ressources et l'énergie pour gérer un shitstorm, je peux comprendre parfois qu'un éditeur ait pas envie de se lancer dans ce genre de truc là et juste envie de faire en sorte que son jeu passe entre guillemets, mais c'est une bonne chose maintenant que tout le monde puisse s'y mettre et se sente un petit peu comment dire empowered, enfin fort, enfin se sente suffisamment fort pour le faire quoi.
Et c'est un bon gros coup dans la gueule des terroristes intellectuels qu'on connaît qui justement sont à l'origine de ces shitstorms divers et variés de ces dernières années. Patrick, tes impressions à toi?
Alors moi je suis assez d'accord sur le manque global de surprises, hein. C'est vrai qu'on a eu toutes les belles conférences, c'est vrai qu'il y a eu des beaux moments, notamment chez Microsoft, il y avait une densité. Sony, il y a eu des tours de force, hein. The Last of Us 2, moi ça m'a décroché la mâchoire, alors que j'avais plutôt des réserves, hein. Il y avait eu le côté un petit peu tape à l'œil de la première présentation par Games Week.
Oui, ultra violent en fait.
Ouais, moi ça m'avait un peu ça m'avait un peu inquiété sur le projet, même si Naughty Dog, on sait que bon, ils savent manipuler ce genre de choses, on sait qu'on a confiance en ce que sait faire le studio. Là, moi ça m'a décroché la mâchoire, tout simplement. Je trouve que cette bande-annonce avec à la fois un moment intime et puis en même temps l'horreur absolue de la séquence d'action, j'ai trouvé qu'il y avait une force vraiment dans les images, dans la façon dont c'était mis en scène.
Il y a une sorte d'énergie commune, mais qui est transformée dans deux choses totalement différentes.
Réussir à faire ça dans du jeu vidéo, ça reste rare. Enfin, je trouve qu'on a observé un moment d'une force incroyable dans des sensations complètement, radicalement différentes, mais qui sont passées avec la même intensité. Ouais. Et ça, chapeau. Naughty Dog, chapeau. Moi, je trouve que la séquence de gameplay, elle m'a halluciné dans sa force. Il y avait une dynamique dans ce passage. Donc chapeau vraiment à Naughty Dog, je trouve que là ils envoient, alors c'est une promesse, il faudra voir tout ça manette en main. Moi j'ai toujours un petit peu peur du script qu'on peut avoir dans certains passages,
on se donne rendez-vous franchement dans un ou deux ans quand le jeu sortira et on comparera
et là, on verra.
Les cinématiques entre ce qu'on jouera et ce qui a été montré,
ça on verra.
Je suis pas convaincu,
on est d'accord.
Alors, que les animations n'aient pas été scriptées à l'avance, je dis pas que c'est pas le moteur du jeu qui a tourné,
mais séquence sous la voiture où elle est sous un véhicule,
où la meuf met 3 secondes à tomber là, je demande à voir vraiment.
Mais en tout cas j'ai envie de dire peu importe, en tout cas l'effet était réussi. Moi je trouve que ça a embarqué complètement la conférence Sony. Après moi je pense que globalement peu de surprises, il y a eu beaucoup de confirmations, hein. The Last of Us, moi j'attendais que ça, d'avoir une confirmation. J'ai plutôt une confirmation sur ce qu'ils veulent faire et de la direction qu'ils ont prise.
Ça va être la même, à part qu'on va plus être centré sur Ellie que sur Joel.
Ouais, mais je trouve qu'il y a un ton qui est ressorti vraiment de cette bande-annonce. Il y a un ton, il y a un postulat, je trouve, quelque chose, il y a une force qui ressort et moi qui m'a vraiment marqué. Globalement peu de surprises et je pense qu'on retiendra cette E3 comme un E3, on l'a déjà souvent dit, hein, mais un E3 de transition, pareil, c'est peut-être un mot, un E3 de transition à éviter.
Autant grand-messe, je veux bien qu'on le laisse, mais alors un E3 de transition.
Non, mais je pense vraiment, je pense que c'est ce qui restera. Je pense qu'on est sur une fin de cycle des consoles actuelles.
En fait, on est sur le début de la fin en fait.
Non, mais c'est exactement ça, et je pense que c'est assez symptomatique et ça explique pas mal de choses.
Mais alors moi le truc c'est que j'adore les fins de cycle.
Mais c'est là où tu as des très grands jeux. Général. C'est là où tu as des très grands jeux.
On n'a pas dit que c'était pas bien. Hein.
Ah non, surtout maintenant. Mais ça explique aussi, ça explique le manque de grandes surprises dévoilées lors des conférences, notamment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en coulisses. C'est-à-dire qu'on prépare chez les constructeurs la prochaine génération. Je mets Nintendo à part, évidemment, parce qu'eux sont sur un cycle un petit peu différencié.
Ils sont décalés maintenant.
Ils sont décalés. Donc Nintendo à part, je pense que les deux autres sont vraiment en train de préparer activement la prochaine génération. Je pense que l'E3 prochain, on va commencer vraiment à rentrer sur le dur.
Bah, Xbox a carrément évoqué.
D'ailleurs, ça a été évoqué. Voilà, on bosse sur la prochaine, on le dit clairement. Donc là, on vous offre un boulevard de jeux sur l'actuel, voire aussi quelques premières images de la prochaine génération. On parle de Cyberpunk, je pense qu'il n'y a pas de secret. On parle vraiment déjà de la prochaine génération. Oui. Le jeu, il ne sortira pas avant 2 ans minimum.
Ils l'ont dit. Ça fait un moment qu'ils sont dessus quand même. Hein.
C'est minimum 2020.
Tout ça est à confirmer, mais vu l'ambition en plus du projet, on se dit que ça va avoir du mal à tenir, je pense, sur une génération. Peut-être que ça sera peut-être des titres cross-platform, mais qui sont plus à l'aise évidemment sur une génération à venir. Donc je pense vraiment que c'est ce qui marque cette E3, c'est que peu de surprises, beaucoup de choses à mon avis en coulisses qui se préparent et qui seront sûrement rendues publiques l'année prochaine ou voilà, en dehors de l'E3, mais en tout cas il y a des choses qu'on peut pas voir, et là on est vraiment en train de finir un cycle, donc on est vraiment en train d'envoyer les dernières grosses cartouches, les grosses licences qu'on connaît déjà bien sur les machines d'aujourd'hui.
C'est pas non plus la fin, on est sur le début de la fin, c'est-à-dire qu'on commence à percevoir, mais bon là il reste encore un ou deux E3 avec la PS4,
bien sûr, c'est normal, c'est une transition, mais je pense que voilà, il y a clairement des regards vers les machines
c'est
suivantes.
C'est comme les campagnes présidentielles qui commencent 2 ans avant.
C'est exactement, c'est une très bonne façon.
Mais comme tu disais, c'est pas les pires années. Hein. C'est les années où les machines sont poussées au maximum. Quand on voit, comme tu disais, mais... t'avais des doutes sur The Last of Us. Sur quoi ça tourne? Quand tu le vois, tu te dis, waouh, c'est la machine que j'ai achetée il y a 3-4 ans qui peut faire ça.
Non,
tu te dis, c'est impressionnant.
Non, je pense que The Last of Us ne mettra pas autant de temps à sortir que Cyberpunk, je pense.
Non,
non,
bien sûr,
je te parlais de la génération.
The Last of Us, c'est 2019.
Je te parle d'une génération de machines qui a 3-4 ans aujourd'hui, maintenant. Donc on se dit, waouh, c'est ces machines-là qui arrivent à faire, qui sont poussées au maximum.
En fait, ils sont malins, Sony. Ils sortent les gros jeux juste avant que la suivante sorte. Comme ça, ils sortent le jeu, puis son portage.
Mais je crois que le premier The Last of Us, c'était sur fin PS3. Hein.
Bah oui, c'est fin PS3, et ensuite, ils l'ont sorti sur PS4.
Et pareil, je me rappelle qu'il avait frappé en disant, waouh, la machine est capable de faire ça. Elle est vraiment poussée au maximum.
Mais moi, il y a une question sur... alors, je vais revenir sur l'aspect attendu hyper rapidement. Hein. C'est, l'aspect attendu, il se voit pour moi à deux choses. C'est les conférences, hein, avec ce qui ressort des conférences. Alors, les exclus Xbox, on est quand même sur du Halo, du Gears of War, du Forza.
Mais Erwan, je vais te poser une question. Est-ce que tu es américain?
Mais non,
ça ne peut pas t'intéresser. Ça ne peut pas t'intéresser.
Non, Halo, Gears of War. Laisse-moi finir. PlayStation, on sait sur du Last of Us, du Death Stranding, du Marvel, Spider-Man, et avec. Ouais, bref. Un Remedy qui a un peu perdu sa crédibilité depuis le précédent. Dont je ne me rappelle même plus.
Quantum Break.
Et Ubisoft, pareil. La vraie nouveauté d'Ubisoft, c'est le prochain Assassin's Creed qui avait leaké en plus. Donc. Alors que on se rappelle encore beaucoup de la conférence de l'année dernière d'Ubisoft où on avait eu avec BGE2, on avait le Skull and Bones qui avait déjà été
Mario Rabbids aussi,
le Mario and Rabbids plus
frappant,
Assassin's Creed Origins.
Qui débarquait,
donc on fait la comparaison, on se dit cette année en termes de grosses surprises
j'ai bien aimé le Starlink avec Star Fox, je trouve que ça résout un des problèmes d'identité du jeu et je trouve que c'est plutôt une bonne idée de mettre Star Fox.
On n'a pas d'identité, on va la piquer aux autres.
Ça peut sauver le jeu à mon avis.
Mais il reste concernant ces histoires de cycles, c'est une remarque qui ne vient pas de moi, que j'ai vue sur Twitter, mais je n'ai pas la source parce que je m'en souviens plus. Pardon.
On va dire Ned Sabes dans
le doute. Non, je sais plus si c'est Oscar le maire ou
quelqu'un
d'autre.
C'est vrai que c'est l'autre moitié.
L'autre moitié. C'est de se dire que on est sur une génération. Est-ce que on n'est pas arrivé à des générations de consoles trop courtes par rapport au temps de développement des très gros jeux? La conclusion en venait de c'est une génération de consoles qui n'aura pas son GTA, qui n'aura pas son Elder Scroll, parce qu'il y a eu cette espèce de teaser de 15 secondes
il est pas pour tout de suite.
Et ça veut dire que quand même c'est une génération de consoles qui n'aura pas les deux licences occidentales majeures de la dernière décennie qui sont capables de rouler sur tout le monde, c'est-à-dire que à tel point que on ne sort aucun jeu en face d'un GTA ni d'un Elder Scroll parce qu'on sait que ça va capitaliser toute l'attention. C'est-à-dire qu'on a deux licences majeures du jeu occidental qui seront absentes. Alors on peut dire que GTA V est aussi une licence de cette génération parce qu'elle est sortie.
Je suis assez d'accord avec ce point de vue-là.
Les très gros jeux ont besoin de tellement de temps de développement que le cycle de 5-6 ans actuel des générations de consoles ne suffit même pas pour en sortir un par génération.
Certes, mais après, je pense qu'on est dans un nouveau paradigme. Faut pas trop regarder uniquement les paradigmes anciens. Par exemple, tu vois, admettons un GTA. Admettons un GTA est annoncé ou sera annoncé plus tard. S'il sort sur PS5 et Xbox, je ne sais pas comment elle s'appellera, Xbox Y, je n'en sais rien, je pense qu'il suffira de tweaker. Il suffira, c'est facile à dire, mais il suffira de ils vont sortir une version PS4. Ce serait quand même bizarre de pas utiliser le parc installé de console à PS4 qui est quand même hallucinant. Je veux dire, à mon avis, s'ils sortent un Elder Scrolls ou un GTA 6, ils le tweakeront. Il sortira également sur PS4 parce que la PS4, elle est partout, quoi.
Ça dépend quand il sort. GTA 6, pour l'instant, on n'a pas du tout de.
C'est étonnant. C'est étonnant quand même. Alors, on sait très bien que Rockstar, par exemple, ils font tellement de pognon avec leur GTA 5 encore aujourd'hui qu'ils prennent un temps absolument dingo.
Ce serait génial qu'on se retrouve dans 4 ans et que les nouvelles consoles sortent et qu'ils annoncent un nouveau portage GTA 5.
Non, mais c'est ça.
C'est intéressant de savoir si les développeurs l'ont assimilé très vite, cette question. Effectivement, si elle se pose, est-ce que GTA 6 sera sur PS4? Est-ce qu'eux l'ont assimilé Est-ce qu'ils l'ont assimilé très vite? Est-ce qu'ils ont tout de suite compris? Bon, bah, on bosse déjà sur la... bah, tu vois, à quel moment... Alors, ça
j'annonce sur PS5 qu'il y aura Minecraft, GTA 6 et Fortnite. Voilà.
Fortnite 2.
Tiercé,
Donc voilà, c'est vrai qu'on est, on est sur cette constatation qu'il va quand même y avoir des grands, grands absents de cette... Alors, ça ne veut pas dire que les catalogues sont vides. Hein. Il y a énormément
Red Dead,
de...
Il y a Red Dead 2 aussi qui est quand même là, qui va jalonner quand même.
Ouais, mais ce ne sera pas aussi fort. Sera...
Non, oui. Bien sûr, mais c'est, il va quand même... Pas, ça va être un repère aussi sur la vie de cette génération.
On part du postulat qu'elles sortiront bientôt, ça se trouve on les verra pas avant 2021, hein. Je veux dire,
oui, non, mais ça, oui, ça reste
très probablement, bien sûr, mais bien sûr. On sait aujourd'hui que ni Cyberpunk ni pour le coup Elder Scrolls ou GTA ne sortiront, ça c'est une
d'ici
certitude.
2021, je pense quand même que les Elder Scrolls et Cyberpunk, ouais, seront là. 2021, ça va, c'est dans 3 ans.
Ouais,
on n'a rien vu pour l'instant, ça reste
je sais, mais bon,
sur Elder Scrolls,
4 ans pour un jeu Bethesda de ce calibre, ça, il me semble, c'est la norme.
Mais comme tu disais, c'est pas aussi simple, on n'est pas sur une fin de génération, on est à un croisement, le croisement
c'est le début, on commence à y penser,
voilà, en fait. Non mais c'est ça, on va pas arrêter la génération actuelle.
Alors, juste
c'est plus
pour
le croisement des deux.
Pour compléter ce panorama de l'E3, donc on a parlé rapidement de The Last of Us 2, voilà, sur les quelques jeux qui sont les incontournables, on a écouté un morceau du trailer de Cyberpunk 2077. Vous êtes d'accord, c'est un peu la promesse ludique ultime de cette E3.
Ils ont tout, hein. Ils ont la licence qui est ultra respectée chez les rôlistes, et puis il y a le studio derrière en qui on a une confiance absolue. Enfin, ils ont largement fait leur preuve avec The Witcher. Enfin.
Puis il y a eu la double détente, hein. Il y a eu, c'était un jeu qui était annoncé depuis longtemps, dont on n'avait pas vu grand chose.
Ouais.
Ils arrivent dans cette conférence Xbox avec quoi qu'on en dise, même si c'est de la cinématique, machin. C'est une séquence
aussi, déjà,
qui
suite,
promet de l'open world, un univers cohérent, ouais, avec des possibilités qui semblent déjà quasi infinies d'action, de quêtes secondaires, de trucs à faire et tout ça. Et puis la double détente, c'est les échos qu'on a des présentations faites à la presse qui sont l'air complètement hallucinantes, ouais, hein.
Comme tu dis, c'est une des rares surprises qu'on a eu, alors pas dans l'annonce parce qu'on le savait, comme tu dis, mais dans l'univers et tout ça,
dans l'ambition,
et c'est pour ça que je pense qu'il nous a le plus marqué, parce que c'est là où on a fait waouh waouh, et que voilà, mais, alors ouais, que rien d'autre nous a fait faire waouh, parce qu'on savait à quoi s'attendre, que enfin un peu chez tout le monde, quoi. Donc oui Cyberpunk a un peu gagné par défaut entre guillemets, mais n'a pas démérité pour autant, j'entends bien,
tout à fait.
Et en effet, ouais, donc on pensait plutôt à un jeu à troisième personne. Finalement, c'est un FPS, un peu RPG, ouais, avec des stats et tout ça. Et oui, apparemment, ceux qui ont vu le jeu tourner ont dit le fait de voir le jeu tourner m'a encore plus hypé.
C'est plutôt bon signe.
Je pense qu'ils vont diffuser dans bon pas signe. Longtemps la
fameuse
séance de gameplay.
C'est pas déceptif par rapport à la fameuse bande-annonce de Microsoft.
C'est,
ouais,
c'est ça,
ça,
au contraire.
Plutôt, si
au
c'est à la hauteur de ce qu'on a vu, c'est
étant
plutôt
donné
encourageant.
Étant donné que c'est CD Projekt, ça sera, ils ont expliqué, il y a de la nudité, il y a du gore, donc ils y vont pas avec le dos de la cuillère, c'est pas aseptisé, je pense que c'est attendu de la part du studio polonais, donc c'est plutôt... Moi, ça me satisfait, mais je suis pas vraiment le public, donc après je vais pas dire que je suis pas ultra excité par rapport à Cyberpunk, mais c'est juste parce que je suis pas la cible particulièrement, mais en tout cas c'est en effet le jeu qui a les plus belles promesses de cette E3, je suis entièrement d'accord.
Sur la conférence Ubisoft, hein, autre conférence devenue majeure, hein, de cette E3, alors on parlera peut-être tout à l'heure en deuxième partie d'émission de BGE2, mais parce que oui, c'est impressionnant, les cinématiques sont impressionnantes, mais comme elle l'était la cinématique de l'année dernière, on reste dans de la promesse.
C'est quand pas même, tout de suite, hein. C'est pas
pour
tout
moi,
tout suite, hein.
le jeu qui convainc vraiment dans cette présentation Ubi, c'est quand même Assassin's Creed Odyssey.
Oui, il convainc peut-être comme Cyberpunk, il convainc plus par son univers que par le reste, parce qu'au niveau gameplay, c'est Origins, hein, clairement, il n'y a pas
avec quelques nouveautés, les combats de groupe façon...
Ouais, c'est impressionnant la scène là, qu'on a vue.
C'est plus de la déclinaison,
plage,
quoi,
ou...
mais bon, oui. Et ouais, puis des dialogues un peu plus jeu...
Genre RPG,
RPG,
ouais.
BioWare et compagnie. Voilà. Après, c'est bon, moi, j'attends pas d'Assassin's Creed qui révolutionne son game design. Je pense que tout le monde attend un univers immersif, sympa, avec... voilà. Et en l'occurrence, on peut jouer une meuf maintenant, donc c'est,
ça va
me porter encore plus de liberté sur ce qu'on a envie d'incarner dans ces trucs-là.
Garder le cap d'Origine, ce qui était vraiment une relance forte et qui a vraiment marqué tous les joueurs qui ont mis la main dessus. S'ils arrivent à conserver cette tendance licence et à ça peut être très bon pour la licence. Hein. Elle a besoin aussi d'être soutenue. Mm. Il faut surtout pas rentrer dans le côté plan-plan itératif tous les ans.
C'est parti pour ça. Toujours pareil avec Assassin's Creed.
Attention.
Tu commences, t'as un moteur, ils en font quatre. Ils en font que les gens n'achètent plus, ils arrêtent pendant un an, ils font un nouveau moteur.
Et c'est pour ça que je disais, tu vois, tu parlais des dialogues, ouais, etc. C'est important. Mm. C'est important ces choses-là. Les scènes de combat massives, elles sont importantes parce qu'elles apportent aussi une petite pierre en plus. Et si ça permet comme ça de consolider les acquis d'Origins, eh ben banco.
C'est ça, c'est l'ambition. Puis l'ambition finalement, c'est le contrat d'Odyssée, hein, c'est de confirmer Origins.
Voilà.
C'est-à-dire que Origins a été une vraie surprise, une vraie excellente surprise pour tout le monde, parce que cette licence à laquelle on ne croyait plus,
qui était usée,
qui avait été un peu annihilée par des jeux moyens, là est revenue hyper en force. Là, il faut confirmer. C'est pas la moindre des choses. Je trouve que l'univers proposé fait envie,
ouais,
hein, la mer Égée, l'Odyssée,
clair,
le machin, enfin les Spartes, tout ça. Et il y a suffisamment de nouveautés et de choses qui intéressent.
Mais pour moi, c'est le Syndicate d'Origins, quoi. C'est-à-dire que Syndicate, tout le monde avait trouvé ça cool parce que voilà, c'était vraiment Unity mais affiné, plus sympa, machin. Il a moins bien marché, bizarrement. Et
il payait le retour d'Unity. Enfin, c'est toujours le jeu suivant,
oui,
en général.
Sûr. Mais voilà, c'est le jeu qui va être affiné et qui va moins bien marcher que le
mais
précédent.
Mais là, justement, Origins a eu une bonne critique. Il a plutôt bien marché. Donc,
c'est vrai.
Celui-ci,
on part d'ailleurs,
il a les voyants au vert tous les niveaux.
C'est ça.
On verra, mais ça se présente plutôt pas mal. Effectivement.
Après, reste pour moi, en tout cas, la vraie crainte d'Odyssée, c'est sur une des nouvelles promesses, c'est ces dialogues et ce côté RPG.
À la Mass Effect, un peu à la...
Alors, peut-être qu'ils ont embauché ou que les gens ont gagné en expérience ou j'en sais rien, ils se sont améliorés. J'ai jamais trouvé que les dialogues étaient une force incontestée chez Ubisoft. Alors, peut-être que, vu que ça devient une option de jeu, une option de gameplay, ils vont travailler cet élément-là.
J'y crois zéro.
J'ai un peu de mal à y croire. Je ne demande qu'à être surpris. Mais pour moi, c'est une crainte parce que, voilà, c'est vrai que c'était aussi une des grandes réussites d'Odyssey. Qui se servait de ce qu'ils avaient fait sur Watch Dogs 2 par exemple et tout ça, c'est d'avoir ces micro-aventures, cette espèce de foisonnement comme ça. Je trouvais que les quêtes secondaires étaient plutôt bien trouvées, à défaut d'être excellemment bien écrites, mais étaient plutôt bien trouvées, ça engageait dans tout ça. Après, remettre en avant des dialogues, une quête principale et des choses comme ça qui sont pas forcément le point fort d'Ubisoft, j'ai des points d'interrogation. Bref, et puis peut-être, oui, tu voulais parler de Deliveroo Stranding,
oui.
Corentin.
en fait, c'est bien, on a vu du gameplay, en fait, tout simplement. Enfin, nous, c'est ce qu'on demandait. Est-ce que Kojima est en train de nous préparer un film d'animation ou est en train de nous préparer un jeu, en fait? Et là, on a eu un petit aperçu de gameplay, donc on a vu un peu d'infiltration, on a vu pas mal de déplacements dans les steppes, enfin, même pas dans les steppes, c'est de la montagne, le mec faisait de la rando un peu.
À la Prometheus,
Voilà,
moi, ça m'a fait super envie.
Non, mais pareil.
Je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que c'est Kojima? C'est le charme de Kojima.
Pas chez moi, non.
Parce que pour moi, c'est l'ambiance Metal Gear Solid 5. Hein. C'est la même. C'est la même chose. Et notamment dans Metal Gear Solid 5, il y avait ces super soldats là qui poursuivaient. Moi, j'ai ce sentiment là, les moments de tension dans Death Stranding qu'on a dans les cinématiques, c'est les mêmes moments de tension qu'on a dans Metal Gear Solid quand on croise c'était des super soldats fantômes, machin quoi. Et là, c'est pareil. Donc voilà, il y a les assez doux.
Moi, je suis plutôt ravi qu'ils sortent de Metal Gear Solid au final.
Qui crée quelque chose d'autre.
Et moi, justement, comme toi, Erwan, elle est singulière, cet univers, cette bande-annonce,
ce
qu'il avait montré avant. Ça étonne, ça intrigue, on a envie d'en savoir plus.
Carrément,
il sait très bien le faire, il est très fort pour ça, Kojima. Mais en tout cas, ça laisse pas de marbre, clairement. Et il y a une patte artistique,
c'est immédiat.
Il y a un vrai truc d'auteur derrière ça. Et j'espère que le jeu va suivre. Je pense qu'il a quelque chose derrière qui va être solide, j'espère. Ça va pas être un paperboy déguisé, je pense pas. Non, je pense pas. Et en tout cas, on a envie.
La comparaison
c'était un peu fort. Moi je lui fais confiance, je pense qu'il va le jeu
pour moi Kojima c'est à la fois des fulgurances et des lacunes hallucinantes. C'est toujours genre tu fais waouh, c'est du génie, et juste après mais pourquoi il a fait ça, c'est du génie, pourquoi il a fait ça, c'est du génie, pourquoi il a fait ça, tout le temps
mais il laisse pas de marbre, et ça c'est ça.
Ah oui, non, mais ça c'est bien,
c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire. Et là je pense que là il s'est un peu lâché tous les curseurs au maximum.
Sony fait tu veux de l'argent, tiens, prends de l'argent.
Non mais c'est génial, c'est intéressant de voir un auteur qui se lâche, il est plus dans le carcan finalement de la licence qu'il connaissait et qu'il a travaillé pendant des années, puis il part sur autre chose et ça va être fascinant. On n'a pas de date, je crois.
Non, toujours pas de date, mais on allait assez doux, et ça, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi.
Et quand même, avant de donc qu'on prenne un peu de temps pour parler de vampires, il faut qu'on parle de la prise d'otage de cette E3, de cette vidéo absolument surréaliste qui a pris énormément de gamers en otage pendant 25 minutes.
Comment ça, t'as pas aimé ton quart d'heure de Smash Bros?
Ça commençait super bien avec le Mario Party sur Switch, avec les écrans qui se connectent. C'est une super idée.
Surtout, ils sont revenus à l'ancienne recette. Merci, Dieu merci pour Mario Party.
Ouais, mais moi, surtout.
Je pourrais vous parler de Mario Party.
Moi, c'est les écrans qui se connectent. Ça m'a. Waouh, je dis, oula, ils ont un truc avec ça.
Oui, mais c'est gadget. Bon.
Bah oui, mais non. Plus...
Non,
pour
moi, à quel moment tu te retrouves à deux Switch chez toi en party game?
Ça dépend du jeu. Ça dépend du jeu.
T'as pas de potes qui ont des Switch.
Mais ils apportent pas leur Switch. J'apporte leur manette pour jouer à Mario Party.
On est trois autour de la table. On ramène chacun. Il y a un truc à créer.
Oui, moi, je te dis, ça sera 4 minutes. Je te le dis tout de suite.
Mais en tout cas, bon, après, puis après, il y a eu un couloir, un tunnel de 25 minutes de Smash Bros où j'ai l'impression qu'un mec me lisait la notice avec
tout. Non, mais c'est le patch note le plus long que j'ai jamais vu en vidéo.
Non, mais dans ce cas-là, il fallait faire un direct dédié. Et puis voilà.
Exactement. Pourquoi mais ils ont pas fait ça? Ou alors l'annoncer clairement, ça sera un Smash Bros
mais
direct.
Oui, voilà.
Ils l'ont déjà fait. Pourquoi ils le font pas?
Là, non, on attend. À l'E3, on veut pas ça.
Mais tu es quand même hypé. Voilà.
Ouais, évidemment. Enfin, moi non, hein, mais je comprends que les Smash Bros addicts n'en puissent plus. Évidemment, hein, on attendait. Encore une fois, aucune surprise. Enfin, je veux dire.
À part cette histoire de Mario Party, qui m'a tapé dans l'œil, qui m'a intrigué. Sinon,
c'est la seule
surprise.
Et puis il y avait le jeu de robot du début, là.
Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Mais voilà, ça a commencé très bien. Et puis après, c'était plus compliqué.
Et il y a un nouveau personnage. Waouh.
Dans quoi?
Non, dans
le Smash perso Bros, de.
Alors, je suis pas d'accord, parce qu'il y a au moins 3 nouveaux personnages. Donc...
Oh. Ouais, enfin bon. C'est...
Sur 70 personnages, c'est vrai que ça fait un pourcentage de nouveaux personnages assez léger.
Donc voilà, ça c'était un peu les très incontournables, hein, comme on peut les appeler. On en reviendra évidemment en deuxième partie d'émission sur un peu l'ambiance générale. Et puis tous les.
Ce qu'on a aimé.
Ce qu'on a aimé, les choses moins incontournables, mais auxquelles on a beaucoup envie de jouer. Mais en attendant, on va un peu aller à Londres, époque quoi, Seconde Guerre mondiale,
Fin de la Première Guerre mondiale.
Et puis on est devenu un vampire. Voilà, ça s'appelle Vampire.
Overnight, my world has changed. The gnawing hunger inside me. Every night, it must be appeased. The thing I've become. A vampire. A thing to be hunted down like an evil beast. But as a doctor, I know there's worse to come.
Oui, donc je m'excuse platement pour ce lancement absolument pitoyable.
C'était le meilleur lancement, j'adore. On est un vampire, c'est vampire. Enfin,
j'aime beaucoup.
Je me suis auto-fait spalmer. Donc, Vampire qui, quand même, est attendu parce que... Pourquoi il est attendu? Parce que
vampire.
C'est la deuxième... Bah, bon, parce qu'il y a des vampires, mais bon, ça, c'est un peu... Bon, déjà, il n'y a pas de zombies, mais il y a des vampires. Et puis, surtout, c'est la deuxième grosse prod de Dontnod. Enfin, c'est la troisième grosse prod de Dontnod, mais c'est la grosse prod de Dontnod qui vient après Life is Strange, donc c'est
qui
là où...
Qui part sur autre chose, du coup, sur
qui
une
part
autre
sur complètement
famille
autre
de
chose,
jeux.
Mais voilà, et on était obligés d'être un peu attirés par cette proposition, hein, comment un studio qui sort un jeu narratif très original qui a réussi à s'imposer, à imposer sa patte, enchaîne sur un univers totalement différent, beaucoup plus classique. Voilà, on est dans du gothique, dans du vampire, dans des choses, dans du RPG, dans du action RPG, mais qui du coup on rentre dans une case énorme du jeu vidéo, là où on essayait de s'en sortir même avec Remember Me ou avec Life is Strange de façon donc plus réussie. Voilà, donc là ce studio rentre dans des cases, rentre dans des choses connues. Comment est-ce qu'il s'en sort? Donc on s'interrogeait. Et alors ce vampire, Patrick?
Alors le mythe du vampire, moi ça m'a toujours fasciné. Moi je suis un fan de de vampires au cinéma, tout ça. Et puis il y a déjà le jeu vidéo, évidemment, et c'est toujours aussi intéressé. Alors le zombie, ça reste la vedette historique dans le jeu vidéo. Il y a déjà eu des jeux de vampires plutôt intéressants. Je me rappelle un Night Hunter chez Ubisoft dans les années 80 qui était plutôt intéressant. On jouait à vampires comme ça.
Masquerade, quand même.
Masquerade, évidemment, qui était tiré du jeu de rôle. Il y a eu même une adaptation de Fright Night, le jeu de film des années 80. Bon, le jeu n'était pas terrible, mais bon. Le vampire, il est là et c'est un personnage qui est intéressant fondamentalement, et le jeu vidéo a toujours essayé de capter un petit peu son essence. Ça fait quoi? Alors, en général, on est plutôt du côté opposé, c'est-à-dire qu'on va tuer le vampire. Castlevania, etc. Enfin, c'est un lieu commun d'aller buter le vampire dans son château. Jouer le vampire, ça amène tout un lot de codes. Quand on va incarner une créature noctambule qui se nourrit de chair humaine, ça amène tout un tas de codes plutôt de sang. Qui se prête plus ou moins bien au jeu vidéo. En tout cas, donc voilà, vampire, donc le pitch que je trouvais intéressant vraiment, c'était d'incarner un médecin. Alors ça, c'est la grande trouvaille du jeu, c'est de se dire le vampire, on l'a déjà incarné dans un jeu vidéo, ça a déjà été fait. Le vrai positionnement éthique qu'on va faire, c'est d'incarner un médecin. Donc évidemment, quand on est un chirurgien atteint de vampirisme, on se transforme en vampire. Évidemment, ça amène pas mal de questionnements sur est-ce que je continue à sauver des gens en tant que chirurgien médecin, surtout dans le contexte de 1918, ou est-ce que je vais partir sur mon essence de vampire me dicte, et donc
face à ce qu'on appelle une injonction contradictoire. C'est d'un côté serment d'Hippocrate, de l'autre côté serment de Dracula. Donc est-ce que
sur quoi on va sur
voilà,
quoi on va partir
lequel tu choisis sur tout ça, est-ce que tu peux gérer les deux,
pas bouffer les poches de sang j'en ai même besoin.
Et là, deux trois scènes qui sont rigolotes. À un moment justement, on arrive en pleine intervention et on voit le perso qui déraille un petit peu parce qu'il y a du sang qui arrive et du coup il est un peu gêné parce qu'il a quand même sa nature.
J'aime bien comment tu racontes cette scène. Je vois laquelle un peu rigolote. Il y a un mec qui est sur le billard, il a deux doigts de crever.
Ah, mais je veux pas spoiler, mais bon, on voit que le côté vampire du perso ressort et qu'il est un peu gêné quand même.
Et à chaque fois, genre, t'as deux choix. Vous le trouvez pas appétissant, ou alors passez-moi le scalpel. Quoi. C'est juste ça. Du coup, ça me faisait un peu rire quand même, cette scène aussi.
Alors, moi, pour moi, la réussite du jeu, c'est son ambiance. On va tout de suite on va clarifier. L'ambiance est vraiment là. Il y a un côté gothique. Il y a vraiment une atmosphère qui est développée dans le jeu. Je trouve que ça, il y a des musiques qui sont. L'ambiance musicale est vraiment réussie. Je crois que c'est Olivier de Rivière, hein, qui est un musicien. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment. Le jeu, il parvient à. Il y a une promesse, hein, quand on donne le titre, qu'on donne l'ambiance, qu'on donne le contexte. Je trouve qu'il y a une promesse. On attend beaucoup de choses quand on aime en plus ces univers. Et je trouve qu'il développe ça, le jeu. Après, moi, mon expérience de joueur, au début, était un peu. J'ai un peu ramé au début, hein, sur les deux premières heures, où en fait, j'étais plus Dracula, père et fils, avec Bernard Ménès, que j'étais plus le vampire que du Coppola de Dracula. Je m'explique, j'étais plus à tuer des rats dans la rue et à faire toutes les poubelles pour essayer de survivre. Le côté glamour du vampire, au début, je l'ai pas trop vu. C'est-à-dire que vraiment, je trouve qu'il y a une. En tout cas, il y a une courbe. En fait, il y a vraiment une courbe dans ce jeu de. Les débuts sont pas forcément faciles. Il faut pas mal s'investir. On a tout un arbre de compétences. On est vraiment sur du pur action RPG, c'est-à-dire qu'on est sur un monde ouvert avec les différents quartiers de Londres, avec toute un arbre de compétences qu'on va développer, qu'on va devoir gérer au fil de l'aventure. Et c'est vrai que les débuts, je les ai trouvés assez arides, en termes d'évolution, etc. Par contre, c'est vrai que passé quelques heures, j'ai atteint un plateau où là, j'ai commencé à gérer les pouvoirs du vampire qu'on n'a pas tout de suite, qu'on gère pas bien au début. Il faut vraiment, ça, je trouve que c'est plutôt pas mal finalement. C'est-à-dire que quand on incarne un vampire, on se dit, bah, je suis imbattable, je vais pouvoir faire, foutre la misère à tous les humains. Ouais. Et en fait, non, très vite, le jeu nous apprend que non, on n'est pas un vampire très puissant au début. En tout cas, il va falloir qu'on acquiert ses pouvoirs, les différents pouvoirs du vampire. Hein. On a des coups spéciaux assez puissants. On a des systèmes pour vampiriser, les ennemis. On a des systèmes de protection. Enfin, alors, on a tout un attirail de pouvoirs comme ça spéciaux qu'on va devoir acquérir, maîtriser. Et je trouve que c'est au bout de quelques heures de jeu que j'ai commencé vraiment à plus m'amuser avec les pouvoirs du vampire et à me dire, ah bah là, oui, je commence à mieux gérer. Même si, même au bout de. Ouais, j'ai pas fini le jeu, hein, mais je suis à 8 heures au moins de jeu. On n'est pas à l'abri d'une rencontre un peu difficile avec des humains qui peuvent vraiment nous mettre la misère, même si on a des pouvoirs, même si on n'est jamais vraiment complètement serein.
C'est des humains, c'est des miliciens. Hein,
oui, qui sont armés, ouais. qui sont au courant qu'il y a des vampires dans la
ils
rue.
Ils sont entraînés, quoi.
Et qui, du coup.
Des chasseurs de vampires.
Ouais, qui sont informés, qui vraiment peuvent nous mettre la misère. Donc on n'est jamais d'une certaine
absolue. Je trouve qu'ils sont nombreux, d'ailleurs. Hein. Mais dans une ville comme Londres, je trouve qu'il y a une population de chasseurs de vampires.
Et de monstres.
Et de monstres.
Et ouais, il y a des rencontres avec des.
Londres n'est pas sûr du tout dans Vampire.
Et non, et le loup-garou, moi, il y a eu un loup-garou, une rencontre avec un loup-garou, une sorte de loup-garou dans une cave, mais c'était terrifiant. Vraiment, pour moi, c'était un blocage dans les premières heures où, c'est là où je suis revenu en arrière. Je me suis dit, là, il faut vraiment que je durcisse, mes pouvoirs, que j'utilise mes points de compétences qu'on acquiert, au fil de, du jeu, des choix qu'on va faire de vampiriser ou pas les humains qu'on va rencontrer. Et il y a vraiment un cap, et moi, ça a été le moment où je me suis dit, est-ce que je m'accroche ou pas? Et je me suis accroché. Et je ne l'ai pas regretté. Mais il a fallu vraiment que je me dise, je mets le nez vraiment dans les armes de compétences et j'apprends à mieux maîtriser mes pouvoirs de vampire.
Oui. Corentin.
Donc, tu l'as dit au début, ce jeu a été fait sur une promesse, c'est-à-dire que l'injonction contradictoire, comme tu dis, c'est-à-dire que nous sommes un docteur, mais nous sommes aussi un vampire. Donc, est-ce que je soigne mes patients ou est-ce que je les bouffe tout cru? Le truc, c'est que le jeu n'est pas subtil dans sa démarche. C'est-à-dire que moi, je n'arrêtais pas de penser à Undertale quand je jouais à Vampire. C'est-à-dire que dans Undertale, au tout début du jeu, on vous dit « Ah, ce serait bien que tu tues pas les monstres. » Puis en fait, tout le jeu te dit « Tu les monstres. » Du coup, tu es attiré naturellement à aller tuer les monstres, mais en même temps, si tu réfléchis un peu, tu fais « Ah, apparemment, on peut pas les tuer. Tiens, et si j'essayais de ne pas tuer les monstres ?» Mais finalement, qu'on tue les monstres ou qu'on ne les tue pas, il y a un intérêt dans les deux cas. Il y a vraiment un intérêt dans les deux cas. Dans Vampire, franchement, j'ai du mal à trouver l'intérêt à ne tuer personne. Et c'est cool en fait que t'es joué un petit peu en boulottant des citoyens.
Vraiment sur la fin, je l'ai fait vraiment à la fin pour voir ce qui se passait, mais je l'ai pas fait naturellement, tu vois. Je suis un peu forcé à le faire en fait.
Moi je me suis dit, je vais faire l'inverse, je vais me forcer à pas tuer les gens. Sauf que le jeu ne fait que te pousser à le faire et te punit presque pour ne pas tuer des gens. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que il vaudrait mieux aller dans l'incitation plutôt que dans la punition. Parce qu'en fait, le jeu vous punit pas directement et vous fait des belles récompenses. C'est mange ce citoyen, ça te donnera l'équivalent de deux boss en XP, donc c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'en bouffant un citoyen, c'est l'équivalent de trois niveaux que vous gagnez. Donc, et le but, en fait, c'est de leur rendre service, de leur parler, de résoudre leurs problèmes, et ils vont gagner en expérience.
Et schlack.
Et après, on les mange. Mais ça impacte sur le quartier, sur l'ambiance des différents quartiers de Londres.
Ça a un impact, c'est-à-dire que les quartiers vont devenir de plus en plus mal famés au fur et à mesure que vous mangez les gens.
On le voit quand on se couche tous les jours, du coup, quand on va se coucher à l'arrivée de la journée, on a une espèce de feedback de ce qui s'est passé dans une journée sans nous.
On a une espèce d'organigramme, en fait, avec une personnalité centrale qui est liée à toutes les autres et tout plein de personnalités. Et si ces personnes à l'intérieur de ce quartier sont malades ou sont mortes, en fait, ça va dégrader l'ambiance du quartier. Ça c'est déjà vu.
C'est un peu la zone, quoi. C'est la zone, quoi. Dans certains quartiers, c'est un peu...
Ouais, déjà, c'est pas bien famé quand les quartiers vont bien. Alors, je vous laisse imaginer quand ça va mal. Mais du coup, on a déjà vu ça dans Dishonored, on a déjà vu ça dans d'autres jeux. Bon, c'est bien d'avoir fait. Après, c'est pas non plus dingo. Mais voilà, moi, ça m'embête. Parce que moi, j'ai pas envie d'être puni parce que j'ai envie de faire le bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même terrible. Moi j'arrive à un moment donné dans le jeu où ça y est, je commence à mourir en deux coups, quoi. Juste parce que j'ai refusé de boulotter mes patients.
Mais tu te bats quand même contre les mecs que tu rencontres dans la rue. Enfin, tu vampirises les ennemis.
C'est bien que tu mettes ça sur la table. Donc, il y a les humains. Et il y a les miliciens. Voilà, les miliciens sont des humains, mais tu peux les tuer, il y a pas de problème.
Tu les tues sans conséquence, du coup.
C'est des monstres. Tu peux les tuer entre monstres et la seule différence, c'est que les monstres ils craignent le feu et les humains ils craignent les produits chimiques. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Mais en fait, il faut pas boulotter les humains dans l'organigramme qui ont une personnalité, en fait.
Les vrais personnages avec qui on a des échanges, des discussions.
Ils ont tous un nom. Ceux qui ont vraiment une icône propre à eux, ceux-là, faut pas les boulotter. Mais moi, je me suis senti puni. Je me suis senti puni de tenter d'être vertueux dans le jeu. Et ça, je me suis vraiment... Ça me donne pas envie de continuer, tu vois ce que je veux dire? Alors, je comprends l'idée de tenter le joueur. Vas-y, mange un humain pour gagner 4 capacités d'un coup et t'en sortir. Et le jeu, en plus, c'est pas subtil dans sa démarche parce qu'il vous met dans les textes après que vous mourrez. Ah, vous mourrez beaucoup, mais vous savez que vous pouvez manger des humains. Surtout, n'oubliez pas qu'en mangeant des humains, c'est plus facile. Début du jeu, à chaque fois que tu lances, n'oubliez pas que manger des humains, ça va...
C'est marrant parce que
c'est pas bien, mais ça vous rendra la vie plus facile.
J'ai pas vécu comme ça. Moi, je me suis pas senti incité à tuer, en fait.
C'est parce que t'es pas mort 6 fois sur le même ennemi, je pense.
Si, j'ai dérouillé. J'ai eu des boss où vraiment j'ai dérouillé. Du coup, là, je suis plutôt allé confectionner les seringues pour se ravigoter pendant les combats. Non, après, moi, c'est plus pendant les combats où j'ai ramé sur le gameplay. C'est vrai que le gameplay des combats est vraiment particulier.
Le scène de combat est pas bon. C'est des
locks qui se bloquent. Et moi, en plus, je joue sur PS4 et j'ai eu des des fois j'ai vraiment du lag lors des combats, voilà, où il faut être très réactif hein, quand on est contre un boss qui, plutôt, qui court dans tous les sens, qui jette sur nous. Là on parle vraiment de combats très timés où il faut vraiment gérer ses déplacements, sa reprise d'énergie, parce qu'on a aussi un système où on peut se vampiriser soi-même, se remettre de l'énergie,
c'est son soin,
et du coup ça il faut vraiment le gérer en quelques touches, il faut aller très très vite. Et ça, quand on a des le jeu qui lag ou qui a des micros, ça par contre c'est pas marrant.
C'est du béaba dans le combat, mais il est relou quoi. Enfin vraiment, surtout quand t'es faible, surtout quand tu joues pacifiste,
quand tu fais t'es sur le fil quoi,
t'es obligé
sur le
de
fil,
faire du hit and run, c'est-à-dire tu frappes deux fois, tu t'en vas, parce que sinon tu vas prendre un coup, tu vas prendre très très cher, et c'est pas passionnant quoi. C'est vraiment genre tu vas mettre deux coups, t'apprends le pattern par cœur, c'est du Dark Souls en plus pauvre d'un point de vue combat. Voilà, c'est vraiment, il y a pas de roulade, mais c'est l'équivalent, il y a une téléporte, voilà,
t'as un dash
ou t'es invincible, t'as une jauge d'endurance à gérer, c'est vraiment la même chose.
C'est marrant ce que tu me dis, on sent comment dire motivé à tuer, mais je l'ai pas ressenti comme ça, parce que même dans les interfaces, quand tu échanges avec les personnages que tu rencontres, t'es avant tout dans des arbres de discussion avec des interactions, etc. Finalement le meurtre potentiel, c'est à part, même dans l'interface, c'est toi qui vas décider d'aller chercher avec L1 ou machin,
encore heureux qu'il te force pas à boulotter,
tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas instantané. Moi j'ai joué la plupart de ma partie sans tuer, et je l'ai fait vraiment à la fin en disant bah tiens, je vais essayer de voir ce que ça fait quand même, pour voir concrètement, même en termes de mise en scène, comment ça se passe, où tu attires un mec dans une
tu le charmes en fait,
voilà, tu le charmes, tu le remènes un peu à un coin, dans un coin reculé, et puis là tu fais ce que t'as à faire, et puis après t'as les conséquences qui se découlent de tout ça avec les autres personnages. Je l'ai pas ressenti comme ça, je me suis pas senti poussé à tuer, au contraire, j'ai fait le gros de ma partie en dehors des miliciens que
si
j'ai...
les combats étaient meilleurs, j'aurais pu être d'accord avec toi, mais étant donné que le système de combat est vraiment pas solide, et je pense que c'est un problème de Dontnod, c'est que même pour MMORPG, le système de combat était déjà problématique. Alors j'ai pas joué, mais c'est tout ce que tout le monde a l'air de dire. Voilà, si le système de combat avait été genre sur le mérite, genre vraiment tu peux t'en sortir en étant bon au jeu et en tuant personne, j'aurais été bon, ok, admettons, il suffit d'être bon et on peut s'en sortir. Mais là il y a des moments où je meurs vraiment de manière injuste.
Bien sûr,
la caméra se coince, t'es là, il y a un manque de feedback général où tu prends un coup, tu le ressens pas vraiment. Le jeu de façon, il a l'air daté. Le jeu, il a l'air de dater de 2012.
Ça, visuellement,
pas forcément dans ses graphismes, parce qu'il y a une ambiance, il y a une partie artistique qui est plutôt réussie. L'ambiance musicale, je la trouve réussie, même si un petit peu mal appliquée.
Sur les textures, sur les visages. Alors voilà. On parle beaucoup, en plus on passe pas mal de temps à parler.
Mais voilà, putain, il y a pas de minimap. On passe son temps à faire des allers-retours entre la map et le truc, parce qu'on se perd dans ces rues. Il y a aucun point de repère, c'est les mêmes rues, se ressemblent toutes. Il y a des moments où tu vois où tu veux aller, mais comme ça monte, ça descend, t'arrives pas à aller à l'endroit où tu veux. T'as envie de jeter ton pad à travers à travers le mur, tellement l'interface est mal faite. L'inventaire, j'ai jamais vu un inventaire aussi peu compréhensible. Toutes les icônes se ressemblent.
Il est compliqué.
Voilà, t'as ton inventaire d'armes, toutes les armes se ressemblent aussi. J'avais du mal à retrouver l'arme que je venais de ramasser, qui était meilleure. alors attends, j'ai dague machin et tout, j'y arrivais pas. J'ai eu de l'argent tout le long du jeu. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'acheter quoi que ce soit à n'importe quel marchand. J'ai l'impression que ce jeu essaie de faire comme un triple A avec énormément de paramètres, énormément de trucs là, mais non, ne s'en donne ni les moyens et ne donne absolument pas envie aux joueurs d'approfondir tout ça. Et je trouve ça dommage, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées. Moi, encore une fois, le postulat de manger, pas manger est super intéressant. Je pense qu'il aurait pu.
J'ai tué tous les rats. J'ai eu d'ailleurs un trophée d'ératisation de
rats. Il n'y a plus de rats dans le monde non plus. C'est pareil.
C'est bien, vous avez servi à quelque chose.
c'est
cool.
C'est mais il y a d'autres choses. Les personnages sont plutôt. Les dialogues sont bien écrits. Le doublage est très convaincant. Les accents anglais sont très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont rien à dire, ces personnages?
Ça a été ma principale critique, mais qui rejoint un peu, c'est d'une part que je trouve que Vampire choisit pas son camp, c'est-à-dire que ce côté action RPG, jeu d'aventure, parce que c'est quand même énormément basé sur les dialogues,
bien sûr,
on choisit pas son camp, et du coup par exemple quand on voit un personnage secondaire apparaître à l'écran, on est tout le temps il faut,
puis souvent
hein,
il a une histoire avec
j'ai mon objectif, j'ai envie d'aller voir le Skull ou le machin, tout ça. Mais il faut que je parle, alors on va essayer de s'intéresser à la vie de ce pauvre bonhomme.
Ils sont pas intéressants.
Et en plus, les dialogues, même s'ils sont plutôt bien écrits, sont dans un gameplay utilitariste, c'est-à-dire qu'ils sont totalement intégrés dans une mécanique qui est relativement précise. Hein. Il faut débloquer des indices sur les personnages, débloquer des indices sur les autres personnages.
C'est plutôt bien fichu, je trouve.
Oui, mais c'est bien fichu, mais ça donne...
C'est pas lisible, déjà.
Mais ça donne un aspect complètement utilitariste au dialogue.
Faut parler pour parler, pour débloquer
les trucs.
Ce qui fait que finalement on s'intéresse pas tant à leur histoire vraiment, qui peut être plutôt bien écrites.
Certaines sont des bonnes surprises.
Mais,
ouais.
Mais finalement, on va chercher le truc, on va chercher l'indice, on va chercher machin.
La mécanique.
Et on va être dans la mécanique. Mmh. Et du coup, en virevoltant constamment d'un genre à l'autre, d'un intérêt à l'autre et tout ça, sans à chaque fois aller dans la perfection, sans jamais atteindre une sorte de choses qui sortent du lot, comme Life is Strange pouvait y arriver avec son ambiance, avec ses personnages assez inédits.
On est sur un genre plus codifié, on est sur quelque chose de plus.
Et du coup, il y a un sentiment général de. Mouef.
Ouais, puis un univers quand même confiné malgré tout. Bah, combien de fois j'étais qu'un PNJ qui me dit, il me parlait d'un autre qui était à 2 mètres dans la scène. Où
clair,
tu dis, c'est dommage,
c'est
ça manque d'ampleur, ça manque un peu de. Tu vois, de
et
grandeur.
Et inversement, tu vas trouver un cadavre à l'autre bout de Londres avec un portefeuille. On va dire, ce portefeuille appartient à Jean Dupont. Alors tu vas. Et à un moment donné, tu croises Jean Dupont, j'ai trouvé votre portefeuille. Puis t'avais complètement oublié que t'avais trouvé ce portefeuille. Parce qu'en plus, t'as pas que ça à foutre que de lire tous les textes qu'on te propose, qui sont pas intéressants. Et pour moi, c'est ce que tu dis, le jeu choisit pas son camp, le jeu essaie de te forcer à avoir un choix, il s'y prend mal, le jeu essaie de te dire tiens il y a une enquête, il s'y prend mal, pardon mais il y a des moments où je lançais des dialogues uniquement pour débloquer le dialogue suivant, et j'étais là en train de me surprendre, merde j'ai regardé Twitter, je lance le dialogue, en fait je m'en fous, tu vois ce que je veux dire,
c'est utilitariste.
Et t'es là et tu regardes dans tous les dialogues voir ce que t'as débloqué jusqu'à trouver le bon dialogue qui va permettre à la personne de se barrer et de débloquer la barre entière ou débloquer l'indice suivant, et t'es là et tu fais mais attends qu'est-ce que je viens de faire, j'en sais rien, je vais à l'objectif suivant, puis après tu regardes sur ta carte, alors je dois aller où maintenant, tu dois aller là. C'est-à-dire que le jeu aurait mieux fait d'être uniquement un jeu d'enquête ou un jeu de...
C'est ça, il aurait mieux fait de réduire la voilure mais d'être dans l'excellence.
Exactement.
Et là on est dans un truc un peu trop global qui reste moyen bon.
Il fait tout de manière médiocre.
Est-ce qu'un jeu moyen bon aujourd'hui, voilà, dans tout, ça fait quelque chose? Effectivement, il y a un côté... Au final, il y a un côté un peu OSEF et c'est dommage.
C'est dommage parce qu'il y a plein de bonnes idées et il va jamais au bout, en fait. Il se donne pas les moyens d'aller au bout des bonnes idées qu'il a eues. À quel moment il y a eu si tu poses la question aux développeurs, j'aimerais leur poser la question un jour, pourquoi avoir mis un système de combat? À quel moment vous êtes dit tiens il faut qu'il y ait un système de combat? Est-ce que vous êtes posé la question, tiens on va mettre un système de combat parce que
je pense que c'était le but de fusionner comme ça plusieurs genres, je pense que ça faisait partie de l'ADN du projet, on fusionne comme ça,
Mais je suis curieux de savoir, s'ils sont posés la question j'aimerais savoir pourquoi ils l'ont fait,
du dialogue,
ils nous écoutent.
Ah, très bien, j'aimerais savoir vraiment. Alors, je peux voir l'intérêt, en effet. Le système de combat répond au système de manger, pas manger, parce qu'il y a tout le système d'expérience qui arrive derrière et qui permet d'inciter les gens à manger. Mais à part ça, j'aurais vraiment préféré un jeu d'enquête. Mmh. Avec, par exemple, tu boulottes des types, et tu obtiens, des pouvoirs de déduction et machin comme ça. Et en contrepartie, tu te sépares de pans entiers d'indices ou je sais pas quoi. Tu vois, ça aurait été plus intéressant. Là, c'est vrai que, comme tu dis, ils font beaucoup de choses, mais de manière pas terrible, quoi.
Allez, ça c'était donc Vampire sur console et PC, et donc on va enchaîner. nos émissions sont passées dans un format 1h20, hein, vous êtes au courant.
Si on peut dépasser jusqu'à 1h50, c'est ça.
C'est ça, non. Donc on va enchaîner avec les jeux qui nous ont un peu tapé dans l'œil dans cette E3 2018. Et pour commencer, on va commencer avec un jeu du côté de Devolver, My Friend Pedro.
I've never been particularly fond of violence, but these are bad people. Bad people that need to be stopped. So let's get crazy. Let's get weird. Let's get... well, bananas.
My Friend Pedro, on est sur un shooter avec du slow motion et de la chorégraphie de gunfight en 2D. Et voilà, pour le coup, dans la conf Devolver, qu'on évidemment aussi décalé qu'à leur habitude.
Ça, c'est une conf critique des confs.
C'est ça. Bon, après, le deuxième effet marche moins bien que le premier. Hein, donc,
le début était un peu poussif, la fin était bien quand même.
Le Robocop
à la fin était drôle.
mal quand même, pas mal.
Et donc là, il y avait quand même ce My Friend Pedro, moi, qui m'a un peu tapé
dans
l'œil.
Hein, il peut pas laisser de marbre. Hein. C'est vrai qu'il
les sauts en gunfight roulé, tout ça.
Dingue, ouais,
j'ai vu une séquence de gameplay. Ça, voilà, ça a l'air de fonctionner.
Ça a l'air fun à jouer. Enfin, ça donne envie. Ouais. Non.
Après, le gros danger est d'avoir ce côté un peu désarticulé qu'il y a souvent dans ce genre de jeu où les personnages, les mouvements des personnages sont un peu gérés automatiquement.
Enfin, il y a la casserole à un moment. Il y a une casserole.
Bah, il jette une poêle, il tape dedans et ça tout le monde. Ça c'est bien.
C'est une bonne idée. Moi, en fait, j'aimerais vraiment que dans ce jeu, je vous cache pas qu'il me fait pas plus envie que ça, hormis l'ambiance vraiment rigolote du jeu. Rien que pour ça, je pense que j'y jetterai un œil. Mais c'est vrai que
le gameplay m'intrigue.
J'espère qu'ils vont pousser le joueur à faire des chains un peu comme dans un Tony Hawk Pro Skater du jeu de tir, où on doit ne pas s'arrêter, toujours faire des trucs crétins. Genre, tu peux t'arrêter, mais il faut que la poêle soit en l'air et que tu tires dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et s'ils arrivent à faire ça et qu'ils, un peu comme dans un Dunwell, incite à pousser le joueur au combo, à l'excellence, au beau jeu, là on aura vraiment un jeu sympa. Sinon, bon, on verra. J'espère que ce sera pas juste un shooter de plus avec une ambiance rigolote, quoi.
Tout à fait. Allez, on va faire un jeu par personne. On va tourner pour pas qu'il y ait de monnaie. Parce qu'on va, autrement, on va se battre en temps de parole. Allez, Patrick.
Deux jeux. Un jeu.
Ouais, un jeu. Et puis on revient.
On va tourner
Resident Evil 2.
Voilà.
Le remake de Resident Evil 2, c'était un secret de Polichinelle depuis des années. On savait qu'il allait arriver. On se demandait quand. C'est confirmé. Donc, janvier 2019. Moi, ça me fait ultra envie parce que le premier, c'est un grand souvenir de jeux vidéo, d'angoisse. Pour moi, c'est un grand volet de la saga Resident Evil. Après, évidemment, l'épisode fondateur, le deuxième, il avait un parti pris. C'était une sorte de réplique, de réponse qui partait sur une autre ambiance plus urbaine avec ces systèmes de narration croisée avec différents personnages, etc. Enfin, j'adore Resident Evil 2. Je trouve qu'il était vraiment fondamental dans
c'est
la saga.
C'est celui-là où Hideki Kamiya a commencé à bosser
à vérifier, mais je crois pas. Ce qui est fort, moi, ce que je trouve bien, alors évidemment, on s'attendait à un remaster un peu comme le Resident Evil original, avec là non, on part sur vue troisième personne derrière le dos du personnage à la Resident Evil 4, et ça fonctionne. Enfin, donc on a eu une bande annonce que j'ai beaucoup aimé, moi, pendant la conf Sony, où on avait une première image avec une PlayStation d'époque, etc. Et puis, tout de suite, l'idée que ça va être violent, trash, sanglant, on sent que le jeu va être nerveux et méchant. Et puis après, il y a eu des séquences de gameplay qui ont fuité sur le net. Je crois qu'il y a 15 minutes de gameplay qu'on peut voir facilement. Et ça a l'air...
On appelle pas ça une fuite.
Non, c'était publié juste après. Et en tout cas, ça donne vraiment envie parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve... Moi, je reconnais les lieux que j'ai connus il y a 20 ans. On reconnaît vraiment les lieux, le poste de police. On retrouve l'ambiance fin du monde, parce que c'est vraiment ça, Resident Evil 2. Et en même temps, je pense qu'on peut retrouver la terreur originale de redécouvrir ces lieux avec la nouvelle vue. Et visuellement, je trouve que ça tape vraiment. Donc moi, j'en attends énormément.
Corentin.
Alors, conférence Nintendo, donc comme tu l'as dit, prise d'otage, mais quand même, il y a eu des petits jeux, notamment Overcooked 2. Alors, je sais pas si vous avez joué à Overcooked.
Non, mais... je suis passé à côté, j'ai beaucoup vu les gens et je sais que je mérite un blâme de
donc
y
je,
avoir
je, je, je Donc, c'est une bonne nouvelle pour toi, tu as encore tous tes amis et toute ta famille, donc c'est une bonne chose, parce qu'on se fâche hein, dans Overcooked. Il y a, donc Overcooked, on est en coopération et on a une brigade dans une cuisine et le but, c'est d'envoyer le plus de plats possible, sachant qu'on n'est pas n'importe quelle brigade, on est une brigade sur un volcan, en plein séisme, dans une maison hantée, dans un vaisseau spatial, il y a des mécanismes. Genre, tiens, la cuisine est dans une partie du vaisseau, puis il y a l'endroit où il faut envoyer les assiettes qui est dans une autre partie du vaisseau. Ou alors, il y a la cuisine d'un côté, d'un bateau, d'un camion, et il y a un autre camion qui passe, et c'est là où il y a les ingrédients, tu vois. Donc, c'est vraiment le but du jeu, c'est de faire de la cuisine extreme. Je suis pas encore convaincu de l'intérêt d'un Overcooked 2, hein, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'un simple DLC aurait pu suffire. Mais bon, je ne peux que être content de voir que le coach gaming a encore de beaux jours devant lui, surtout en cette période de Switch et de Steam où il y a vraiment plein de jeux pour se marrer à 4 sur un fauteuil. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans celui-là? Alors, hormis des éléments de game design qui sont intrinsèquement liés aux stages en eux-mêmes, on va pouvoir notamment s'envoyer les plats, donc se jeter les ingrédients et les plats comme ça pour les attraper pour je sais pas si on est séparé par du vide par exemple, donc c'est plutôt rigolo. Sinon voilà, des nouveaux personnages, voilà, je suis pas encore ultra convaincu que ça soit une obligation d'en faire un deuxième épisode, mais bon, Je suis content de le premier jeu était tellement drôle, était tellement amusant, était tellement prenant à 4 joueurs, même à 2, c'est cool que bon, c'est cool qu'il persévère et qu'il continue dans cette voie-là.
Alors moi je vais enchaîner sur quand même deux annonces des gens dont on vient de parler, de Dontnod, quand même, qui ne sont pas passés inaperçus, notamment dans la config Xbox avec l'annonce de The Awesome Adventures of Captain Spirit.
Ça a l'air énorme, ça.
Qui
énorme.
Va être un jeu gratuit, ouais. Un jeu de 2 heures à peu près, c'est annoncé.
On a déjà un peu la durée,
c'est on
ça
On a déjà un peu la durée, c'est un des créateurs qui en a parlé, qui va être donc gratuit et qui est considéré. Enfin, c'est une introduction à Life is Strange 2.
C'est très malin, ça.
Attention.
Très malin.
Et la bande-annonce fait très envie, ah avec ouais, un enfant, voilà, et son univers imaginaire de super-héros. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent vraiment rendre très bien. Et l'autre annonce, alors là, du côté de Bandai Namco, Twin Mirror, qui
un thriller voilà, paranormal surnaturel.
Et finalement, est-ce qu'on n'attend pas plus une évolution Dontnod sur ce genre de choses que sur un action RPG, voilà, c'est peut-être des cases qui leur correspondent plus. Twin Mirror, un jeu un peu fantastique, on se réveille, il y a du sang sur nos habits, on se souvient plus de ce qui s'est passé, il faut qu'on enquête, on va enquêter a priori dans son propre esprit, et il y a des choses. Alors on n'en sait rien, on n'a rien vu là pour le coup du jeu en lui-même. Mais voilà, mais il y a quelque chose qui m'attire plus.
La dernière fois qu'on a eu un jeu avec ce pitch-là, ça s'appelait Get Even et c'était pas terrible, donc j'espère qu'ils feront mieux quand même. Hein.
Il y a un petit parfum de Deadly Premonition là-dedans.
Quand j'ai vu le début de la bande-annonce, je me suis dit, mais c'est le nouveau jeu. C'est Swery ou quoi?
Il est sur autre chose, Swery, en ce moment.
Oui, il est sur autre chose, mais
ouais, ça peut.
Il y avait ce côté-là.
Ça fait envie.
Il y avait ce côté-là. Un côté Deadly Premonition, on ne sait jamais.
Ah, c'est fort, ouais, le jeu gratuit, la transition vers la.
Ouais, ça, c'est pas mal.
Le jeu, c'est vraiment une bonne idée.
Allez, Patrick, je te laisse enchaîner.
Allez, je sais pas, moi, Bethesda, moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de bonnes choses. Il y a Doom Eternal déjà. Doom, j'adore Doom.
Mais c'est très beau logo. Non, mais que des beaux logos chez Bethesda.
Il y avait pas que ça.
La conférence du logo.
D'accord. Il y avait une petite séquence en image de synthèse de quelques minutes.
C'est vrai.
Mais qui en disait long.
Un logo.
Mais qui en disait long parce que c'est Doom 2, en fait. C'est Doom sur Terre. Et,
attends,
c'est rien.
Hein.
Ah, si.
Ils l'ont dit.
Oui, ça va être ça. Et moi, ce qui me fait vraiment envie, c'est que c'est. Moi, j'ai adoré le Doom de 2016. On en a déjà parlé ici. J'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, j'en attends énormément. Doom Eternal chez eux. Rage 2. Qu'on a pas mal critiqué
au
début.
Là, pour le coup, il y avait
Et là, ce qu'on a vu, moi, ça m'a fait envie. Ça a l'air nerveux, ça a l'air d'être bien fichu.
On est dans le fast FPS.
C'est du vrai.
Ils sont
à deux dessus. Avalanche, ils savent faire les open world. C'est du Mad Max, c'est du. Moi, j'ai envie. Ça m'a donné envie, ce qu'on a vu de.
Mais moi,
j'avais
bien Rage.
Moi aussi. Ouais. Donc, c'est pareil, ça me fait envie. Il y a eu deux.
Ça a l'air solide.
Wolfenstein qui n'a pas fait un carton, le dernier. Là, il y a deux Wolfenstein. Il y en a un qui se passe dans les années 80.
Mais c'est des DLC, non
c'est, Non,
c'est
je crois pas.
Alone.
Non, c'est du standalone. Ah,
Blood Dragon.
Youngblood en coop dans les années 80.
Deux meufs.
Mais on veut.
On en a marre des années 80.
Non, non, on prend en direct.
Je suis désolé, Patrick, mais il va falloir qu'on en parle.
Et il y a du Wolfenstein en.
Intervention.
Et il y a du Wolfenstein. En réalité virtuelle, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et puis pourrait aussi qu'ils continuent à être soutenus avec du contenu additionnel. Ouais. Moi je dis qu'ils font le taf, Bethesda.
Ils font le taf, il y a quand même les deux points ultra ridicules de cette conférence Bethesda, c'est The Elder Scrolls 6
et Starfield.
Tout ça.
Mais bien sûr, mais.
Donc, genre, comme tu dis, on vous présente des logos.
Mais ouais, mais ça c'est le 3, enfin ça fait partie du. Voilà.
Non, le 3 tu fais rêver. Le 3 c'est Cyberpunk, tu fais rêver bêtement les joueurs avec des cinématiques, des CGI. Qui claquent et qui veulent rien dire du jeu, c'est ça le 3. On fait 8 secondes pour arriver sur un.
Je suis d'accord, c'est ridicule, mais je veux dire, il n'y a pas que ça chez Bethesda, il n'y avait pas que du flan sur des jeux dans 3 ans, il y a aussi du jeu qui arrive bientôt et qui fait envie. Voilà.
J'ai quand même trouvé cette conférence décevante, tant au niveau du rythme que des annonces, mais bon, c'est
allez, Corentin, je te laisse enchaîner.
Oui, bon, attends, puisqu'on parle de conférence décevante, restons sur Nintendo. il y a quand même Super Mario Party, donc ça a été un des seuls jeux annoncés vraiment, puisque les autres, on savait qu'ils existaient. Alors, Mario Party, ça peut paraître comme ça un peu idiot ou quoi, mais on ne rigole pas avec Mario Party. Parce que Mario Party n'est plus...
No joke.
Mario Party n'est... Alors, et là, je vais me faire engueuler. Mais Mario Party n'est plus bon depuis... allez, on va être gentil, depuis le 8-9. Depuis qu'ils ont changé la depuis qu'ils ont changé la formule, en fait. C'était un système de course à l'étoile où on devait être le premier à récupérer un certain nombre d'étoiles. Il y avait un peu de stratégie, il y avait des choses bien. Et ils sont de plus en plus partis vers une formule où c'était vraiment que des mini-jeux et on était tous sur le même plateau, sur la même case. Et bon, c'était un peu bizarre et ça, franchement, ça marchait pas. Là, ils ont l'impression qu'ils sont un peu retournés à la case départ, bon jeu de mots, sur cette histoire-là. Et on retourne sur des terrains plus classiques où on doit être le premier à récupérer un maximum d'étoiles, contre des pièces, ouais, qu'on gagne dans des mini-jeux, etc. Et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment, ils sont vraiment revenus, notamment sur des systèmes. J'ai regardé une partie, là, il y a le Treehouse qui monte les jeux en continu. Et ils ont montré notamment le fait que chacun des personnages qu'on va sélectionner, il y aura un aspect stratégique puisqu'ils ont chacun un dé alternatif. Et par exemple, je sais plus, il y en a certains, c'est risqué. Par exemple, Bowser, il aura deux faces à moins 3 pièces, donc il avance pas, il perd 3 pièces, une face à 1, une face à 5 et deux faces à 7. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, ouais, un risk-reward qui est intéressant. Il y a des personnages, ils vont avoir que des chiffres petits, que des chiffres gros, ou alors que des chiffres moyens et un chiffre très petit, un chiffre très gros. Donc c'est intéressant ça. J'ai l'impression qu'ils ont envie de revenir vers le stratégiquement sympa pour Mario Party et s'en aller un peu du pure chance. Pure chance qui était un peu ennuyeux et qui à mon sens, a un peu ruiné le Mario Party. Donc je suis plutôt content de voir qu'ils se retourne vers là. Je reste ultra sceptique parce que Mario Party, ça peut être raté très 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 facilement. Après, ça reste une Madeleine de Proust en ce qui me concerne. C'était un peu le jeu de mon enfance. C'était les jeux de mon adolescence. Ouais. Et ça, je me suis bien amusé dessus. Donc, c'est pour ça que j'espère qu'ils reviendront avec une recette solide. On a une date de sortie aussi. Ça sort le 5 octobre sur Switch. Puis voilà, je peux en sortir un autre.
Sans qu'on allez, parce que t'as pas pris de
regarde,
temps.
Regarde, Sable. Tu vois, ça fait envie, Sable.
Oh, Sable. Ah. Bah voilà, il était dans ma liste. Ah, ça tape. Sable, ça franchement. Tape. Bah voilà. Voilà une vidéo où tu apprends pas grand chose de. Mais un univers graphique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de vrai, bon, joli cel shading. Et là, ça tabasse.
Alors, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Pitch, j'en ai marre. C'est un mélange entre Ghibli et... Voilà, il y a
c'est vrai.
Certes, ça ressemble à Ghibli, ça ressemble quand même plus à du Moebius, on est tous d'accord avec ça.
Bah,
on
c'est,
est
dans un c'est Nausicaa. Nausicaa, c'est un peu le mix Ghibli-Moebius.
Je te l'accorde entièrement. Donc, on est dans un cel-shading avec un line immense, c'est-à-dire que on voit vraiment les traits, y compris entre les différentes itérations de couleurs sur la même surface, pour vous montrer un petit peu... Genre, vous avez un feu, et genre, vous avez 3-4 cercles autour du feu pour vous montrer les différentes nuances d'orange qu'il y aura autour du feu, quoi. Et ça a l'air d'être un jeu d'aventure, moi, qui me rappellerait presque les jeux un peu de Ueda en termes d'ambiance. Donc, on est dans des grands environnements assez vides, très désertiques, avec la nature qui reprend ses doigts sur... Ses doigts, si elle reprend ses doigts, oui. Qui reprend ses droits sur des grandes structures faites par l'homme et tout ça. Donc, je pense qu'il y a... Voilà. C'est fait par un petit studio anglais. Il y a deux personnes qui sont dessus. Ça sort en 2019 sur console et PC. Ça me donne très envie.
C'est Bao.
J'ai hâte de voir. C'est Bao. Puis les musiques. Voilà, le choix musical, si c'est représentatif de ce qu'on aura dans le jeu, ça va défoncer.
Ouais, non, Sable, c'est pas mal. Bon, moi, j'ai resté quand même un peu sur la facette triple A de cette E3, et je parlerai peut-être de jeux un peu plus confidentiels, même si tu viens de me griller Sable, c'est pas grave, je t'en veux pas. Quand même. Spider-Man. Spider-Man, open world avec un scénario qui a l'air d'un vrai scénario de Spider-Man et avec des choses qui sont pompées mais honteusement sur Batman Arkham.
On
mais
est d'accord, leur en veut pas. Merci, c'est Batman Arkham mais avec des ressorts.
Mais on leur en veut pas. Il faut se percher sur les épaules des géants. Voilà.
C'est vrai.
Rocksteady, on n'a pas une nouvelle de Rocksteady là. Ils devaient bosser sur des projets a priori.
Ouais, ils ont essayé de
tout ça, ouais, mais non, pas eu d'infos.
Mais quand même, voilà, ce Marvel Spider-Man, c'est très très convaincant. Franchement, de ce que j'en ai vu, et puis surtout ce qu'on attend d'un Spider-Man open world, c'est cette sensation, c'est la sensation d'être entre deux buildings de Manhattan et de balancer sa toile. Et qu'est-ce que ça fait Et là, franchement, il y a une sorte de, il y avait le Spider-Man 2 sur PlayStation 2 qui était très bien.
C'était déjà un open world.
Ouais, voilà. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'ai trippé rien qu'à me balader, mais là il y a en plus cette nervosité, notamment les passages où il court comme ça en vertical pour pas perdre de temps et pour se jeter. Enfin, il y a une sorte de cinétique dans le héros qui fait vraiment très très envie.
Je suis d'accord et pas d'accord. Enfin, oui, ça va être un jeu solide. Je le dis d'avance, ça va être un jeu très solide. Mais à moins, il faut être fan des super-héros, il faut être fan du trip, quoi. Moi, à titre personnel, j'ai juste vu beaucoup d'explosions. d'explosions, beaucoup de déplacements précalculés entre les différentes phases de jeu, un système de combat qui a pas l'air incroyable. Enfin, comme tu dis, c'est du Batman. Je suis encore un peu sceptique. Par contre, l'esprit de Spider-Man est super respecté. Il y a les petites blagues. Il est là avec son talkie-walkie. Il fait des vannes genre on a vraiment rayé la peinture. Enfin, genre tout explose.
Et moi, j'aimerais que, comme dans le fameux Spider-Man 2 de l'époque, il y ait plein de missions secondaires pour vraiment qu'on s'approprie la ville.
Mais je pense que ça a l'air d'être vraiment ça.
C'est pas enclencher des missions à droite à gauche, des petites missions, même tu vois, du quotidien des gens, de les aider sur des trucs, comme se fait Spider-Man. Et ça, j'espère qu'on va retrouver tout ça. Visuellement, ça envoie.
Il faut lui reconnaître aussi qu'il a l'air d'être très généreux d'un point de vue vilain, où il n'y a pas un vilain. Il y a une espèce de roster de vilains immense, c'est ça, ouais. C'est très sympa pour les fans de Spider-Man.
Rien que dans la séquence de gameplay qui ont été présentées,
il y avait un par un, genre, pardon, j'ai pas le temps, salut.
Electro, Rhino, le vautour, le bouffon vert, le scorpion.
Parce que là, du coup,
il n'y en a qu'un seul que je connais dans le site.
Là, il n'est pas lié à un film, donc là, je pense qu'il faut plaisir.
J'ai dit une bêtise, le bouffon vert, on le voit pas dans
cette. Je crois qu'il est sous-entendu.
Il y a Scorpion, Vautour, Rhino et Electro, ce qui est quand même déjà pas mal comme roster. Et on pense évidemment qu'il y aura sans doute le chasseur et les autres après.
Il y a un gars apparemment, il y a une personne qui a tout orchestré, et genre, c'est sous-entendu, et on sait pas qui c'est. Ça pourrait être le bouffon vert, ça pourrait être le bouffon vert, le caïd.
Enfin, il y a de quoi faire. Allez, un autre jeu, Patrick.
Celui que vous m'avez montré tout à l'heure, coup de foudre immédiat.
Il avait pas vu le jeu de l'E3. Merci à vous.
Patrick Hélio de l'E3.
C'est ce que je voulais dire. Donc là, Man Eater. J'ai complètement loupé. Donc un jeu où on incarne un requin. Qui va tuer des gens sur les plages. Moi, ça me rappelle, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un jeu, Les Dents de la Mer officiel chez THQ, sur PlayStation 2 et Xbox, et qui était un nanar, mais un beau nanar, avec des petits extraits du film et tout.
Nous savons.
Et
Patrick,
ça m'a l'air d'être dans la même lignée, ça fait envie, moi, ce que j'ai vu là, vraiment. Il y a un gros potentiel.
Nous savons très bien, de toute façon, Patrick, que tu arrives à voir la beauté en chaque jeu, y compris les pires nanars.
En tout cas, il y a une promesse. C'est un discours
Corentin, tu voulais nous parler de ce jeu de pas de From Software mais l'autre
Sucker Punch
Ghost of Tsushima.
J'étais pas parti dessus, mais c'est parti. Ghost of Tsushima, donc c'était présenté en grande pompe chez Sony. Ça a été, on va dire, le deuxième jeu, je pense, le deuxième gros jeu qui a été présenté après The Last of Us. Donc vous savez, c'est ce jeu donc dans un Japon médiéval, c'est très à la mode sur cette 3 aussi, et donc développé par Sucker Punch. C'était, rappelez-moi,
Infamous aussi.
C'est du jeu d'action,
c'est d'une beauté
assez lent, où on incarne un renin qui se bagarre contre d'autres samouraïs, c'est très beau à tel point qu'on se dit ça tourne peut-être pas sur PS4 ce jeu là on a des doutes, en tout cas l'ambiance, ça a l'air très jolie,
la mise en scène, le côté très cinématographique, ce qu'on a vu, c'était impressionnant.
Je trouve quand même qu'on oscille entre le magnifique et le mauvais goût, mais en termes de couleurs, parfois c'est un peu criard. Après, bon, si c'est bien géré, si c'est machin, c'est en tout cas intéressant, impressionnant. Après, bon, niveau gameplay, je pense qu'on réinvente pas non plus la poudre, mais je pense que là ils vendent surtout une ambiance, le Japon médiéval. Et puisqu'on parle de Japon médiéval, j'en parle très rapidement, il y a le From Software qui a été présenté chez Xbox, par contre
Sekiro,
ça s'appelle Sekiro Shadows Die Twice. Pourquoi ce nom, je ne sais pas. En tout cas, c'est édité par Activision et développé par From Software, un drôle de duo quand même, From Software qui est sur plusieurs fronts à la fois,
From Software où on peut se sauter dans les airs,
ce qui est très étrange, mais quand on regarde le jeu, on sent la patte From Software et sa lourdeur de gameplay maîtrisée quand même. Mais comme on est un peu un samouraï un peu souple, donc c'est un peu plus souple que ce qu'on a pu voir chez Bloodborne ou chez Dark Souls. Donc en tout cas, ça a l'air intéressant et ça sort sur PC, Xbox One, PS4, c'est pour 2019. C'est intéressant de voir que le Japon médiéval a la cote en ce moment.
Et donc tu m'as grillé sable, donc je vais te griller tunique. On n'est pas dans le niveau ultimate de l'originalité, faut bien dire.
C'est du Zelda.
C'est du Zelda. On joue un petit renard kawaii. Mais oui, on est là-dessus. Et pourtant, on est dans du bon goût esthétique. Un côté low poly, ultra travaillé, qui est vrai. Enfin, dans ce que j'ai vu des phases de jeu, j'ai vu le trailer de présentation et tout ça. Il y a pas de faute de goût. C'est bien. Ouais. Ça fait envie. Ça a l'air nerveux, ça a l'air avec plein de petites idées, plein de choses, voilà, où où tout est fait avec quelques polygones, mais c'est très bien pensé. Les couleurs sont sont un peu sont aussi travaillées. Enfin, il y a une sorte de chroma quelque chose qui c'est bien.
Mais après, Erwan, je tiens à te rappeler parce que moi aussi, je suis complètement charmé par Tunic, mais n'oublie pas la jurisprudence Swords of Ditto, parce que Swords of Ditto aussi, il était magnifique.
Voilà, non mais c'est ça, c'est
et c'était aussi un Zelda-like.
Le beau méchant, c'est toujours le risque.
Mais il a l'air de faire très très envie aussi.
Voilà. Ouais. Allez Patrick, qu'est-ce que tu as encore
Moi, un titre comme ça qui est passé dont personne n'a beaucoup parlé, c'est Dying Light 2. Moi j'avais beaucoup aimé le premier. C'était les gens qui avaient fait Dead Island, c'est un de mes jeux cultes.
Ah, c'est Zombie Yamakasi.
Et ouais, en fait,
c'est drôle, c'est ça.
Dying Light 2 qui a été annoncé chez Microsoft, hein, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, bah un titre qui a pas fait beaucoup de bruit mais que moi qui me parle parce que j'aime beaucoup le premier qui est encore soutenu par les développeurs aujourd'hui. Il lance encore des contenus, on est à quelques années quand même du lancement, ils le soutiennent encore. Donc voilà, moi c'est un jeu que je vais suivre. Et puis moi une interrogation plus que c'est le Tomb Raider. Moi je sais pas quoi en penser.
On l'a pas trop vu là.
Bah non, mais quand même il était chez Microsoft, il était à la conf Square Enix.
Je crains le pire du pire du pire.
Bah moi j'adore la licence, c'est pour ça que j'en parle, c'est que j'adore Tomb Raider, j'adore le principe, la licence depuis toujours, et autant j'avais adoré, on en avait déjà parlé, hein, le reboot de 2013, pour moi c'est un jeu que je refais encore régulièrement parce que j'adore ce jeu, je trouve qu'il a une rythmique.
Mais quand c'est que tu trouves le temps de faire tout ça?
Bah, la nuit souvent, j'ai des nuits très courtes, donc je rejoue parfois des jeux, j'aime bien retravailler des jeux comme ça quelques années après.
C'est juste qu'il faut avoir beaucoup de temps pour le faire.
Et celui-là, j'avoue que j'ai refait plusieurs fois, et le Rise m'avait laissé déjà plus dubitatif, m'a beaucoup moins marqué, et là je crains le syndrome de la trilogie qui finit un peu en
autre boudin.
J'espère avoir une bonne surprise.
Alors j'annonce directement,
je suis inquiet.
La recette n'a jamais été chiante, sauf que le 2 n'a pas changé par rapport au 1 qui était cool. Donc vous avez été déçu, comme vous avez été déçu du 2, vous serez agréablement surpris.
Pas du tout.
Le deuxième poussait le côté survie, le côté chasse qui était complètement mis de côté dans le premier.
Le côté violent. Et c'est-à-dire que le truc, c'est que le reboot de Tomb Raider, on nous expliquait comment Lara Croft était devenue Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, on nous expliquait comment Lara Croft était devenue Tomb Raider. Et Shadow of the Tomb Raider, on va vous expliquer comment Lara Croft est devenue Tomb Raider. Donc on a déjà trois pitchs identiques pour trois histoires différentes, d'accord. Et surtout, en fait, le premier, donc on redécouvrait, et puis il y avait, voilà, on était dans la nature, il y avait
une unité de lieu déjà.
Et il y avait un engagement, on avait cette jeune fille qui avait déjà plein de moyens.
C'était un jeu méchant mais qui
apprenait, enfin voilà, et elle n'était pas ultra puissante. Il y avait un moment où elle se rend à un moment dans le jeu qui est hyper drôle, hyper marrant, hyper prenant, où elle se rend
drôle
compte...
drôle dans
non
dans
mais
le...
non mais il y a ce côté come and get some, quoi, enfin il y a un côté
elle se vénère
au milieu du jeu. Et Rise, elle est déjà énervée au début. Elle est vénère au début. Elle bute tout le monde. Et on a ce syndrome où semi-open world, hyper joli, mais en fait tu tues la moitié du Luxembourg. Bon, d'accord, c'est
ça
bien.
Ça pose un problème.
Et là, en plus, donc, c'était pas prévu. C'est-à-dire Rise of the Tomb Raider, on était dans l'Himalaya, machin et tout ça. On va avoir des beaux paysages, sauf qu'on se retrouve à décimer tout le monde. Et là, on nous promet quoi? On nous promet Dark Tomb Raider. C'est-à-dire que non, la promesse initiale, c'est vous allez buter tout le monde. C'est Shadow of the Tomb Raider. C'est ça le problème.
Tu dis les pitchs, c'était comme Lara Croft est devenue Tomb Raider. Je te rappelle quand même, dans les premiers Tomb Raider, tu décimais la faune locale aussi. Pareil, elle a toujours été comme
ça. C'est les années 90, c'était
le monde était différent.
Oui, mais c'est pourquoi est-ce que ce reboot, moi en tout cas, m'avait parlé. C'est que oui, on butait quand même pas mal de gens et tout ça, mais c'était pas le moteur.
C'était une situation extrême.
Rise, c'est devenu le moteur. Et là, Shadow of the Tomb Raider, c'est encore plus que le moteur, c'est le pitch initial. Ouais, quoi. Ouais. C'est le pitch, vous allez buter tout le monde.
Donc, on va regarder ça de près, mais ouais, pour l'instant, du beat.
Allez, Corentin, est-ce que tu as un dernier jeu ou un dernier truc
Un dernier jeu. Allez, deux petits jeux.
Vas-y.
Oublets, c'est pas nouveau, ça a été présenté avant, mais ils ont représenté un nouveau trailer, c'est toujours prévu pour cette année. C'est un mélange entre... ils annoncent ça comme un mélange entre Pokémon et Stardew Valley. Grosso modo, vos Pokémon, vous les capturez pas, vous les faites pousser dans votre potager. Non, mais je trouve ça trop bien. Les personnages sont idiots, c'est des petits Pokémon, sauf qu'il y en a, il est avec un pantalon et il est pas content. Enfin, non, mais ça a l'air adorable. Franchement, c'est fait par une meuf. qui est attendez, j'ai noté son nom, tac, c'est Rebecca Cordingley. Et alors cette meuf là, elle bossait pour un développeur, elle a vu le mec de Stardew Valley faire son jeu tout seul, le sortir, avoir du succès, elle s'est dit allez fuck it, je lâche mon boulot, je fais mon jeu. C'est exactement ce qu'elle fait et son jeu a l'air d'être trop bien. J'adore le design, j'adore l'ambiance, cool. J'adore la musique, j'ai trop hâte que ça sorte. Sortira sur Xbox One et PC. Et l'autre jeu que je voulais parler, peut-être pas encore convaincu, mais c'était chez EA, hein. Il y avait des choses intéressantes chez EA. Et oui, c'est Sea of Solitude. Alors c'est le jeu, ça y est.
Ouais,
c'est le jeu Artie 1D que maintenant EA sort toujours un jeu Artie 1D. Voilà. Donc là, il y avait Unravel 2. Je suis content parce qu'ils ont exécuté le violoniste. Entre temps, on sera moins embêté. mais voilà, ils ont aussi montré Sea of Solitude qui a l'air d'être un jeu à la troisième personne d'aventure, enquête, Walking Simulator, un peu tout ça.
Mais ça surprend plateforme plus. Il y a un côté très systématique maintenant de sortir un titre.
Mais ce Sea of Solitude, donc, qui est fait par
okay, l'air intéressant.
Joe May Games, qui est un studio berlinois, a l'air quand même d'avoir une ambiance assez cool. On incarne une jeune fille qui a perdu son humanité, qui est devenue un monstre parce qu'elle est restée seule trop longtemps. Mais le car design a l'air cool, l'ambiance a l'air cool, les musiques ont l'air cool et les graphismes, hein, l'univers a l'air sympa. On n'en sait pas plus. La meuf, tu l'interviews, c'était William Oduro qui avait raconté ça sur Twitter. Il disait, vous interrogez la meuf, ou le mec, d'ailleurs, je sais même plus qui c'était qui allait interroger. C'est quoi comme type de jeu? Ah non, je préfère pas vous dire car ce serait spoiler le jeu. Très bien.
Au revoir.
Au revoir. Bon, voilà. Donc, j'espère que ça sera pas du flan. Mais en tout cas, moi, j'étais plutôt attiré par l'ambiance. On verra ce que ça donne. Ça sort pour 2019.
Ok. Bon, moi, il y avait quand même, voilà, pour terminer, quelques petits noms, mais je vais pas développer Beat Saber. Donc, un jeu de rythme en réalité virtuelle. C'est comme quoi. Je ne suis pas allergique. Mais là où on a un jeu de rythme avec des sabres laser en VR, ça fait envie. Il y a quoi d'autre? J'ai peur d'oublier un truc incontournable. Non, si, il y a quand même, voilà, peut-être le dernier gros coup de cœur, c'est After Party. After Party, c'est Night School Studio. Night School Studio, c'est Oxenfree. Donc, c'est le nouveau jeu Walking and Talking Game de Night School Studio. Et c'est là où grosso modo, bah, on se retrouve en enfer et puis il y a des fêtes, avec des démons. Enfin voilà, ça a l'air beaucoup plus barré, peut-être avec déjà Oxenfree, il y a des passages assez drôles et tout ça, mais il y avait une ambiance lourde qui était très bien travaillée. Là, ils ont l'air d'être partis dans un truc peut-être finalement où ce nouveau jeu narratif va essayer de retrouver. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Va peut-être essayer de retrouver l'ambiance LucasArts. Tu vois, et ça pourrait être une sorte de crossover avec le nouveau gameplay narratif et les univers qu'on aimait bien, un peu délirant, un peu what the fuck façon LucasArts.
Moi, tant qu'ils sortent du délire un peu Stranger Thingesque qu'il y avait dans Oxenfree, alors à l'époque ça allait parce que on n'était pas encore submergé de ce genre d'univers, mais tant qu'ils repartent pas là-dedans, voilà, je dis amen.
Ils ne repartent pas là-dedans et c'est sans doute une bonne nouvelle. Dernier petit tour de table parce que est-ce qu'il y a des jeux soit qui vous sont laissés complètement de marbre, soit vous vous en foutez complètement, soit ça vous a énervé. Ou pas. Vous n'étiez pas prêt.
Non, c'est une bonne question. Je vais rester chez Square Enix, Just Cause 4. Tout est fait pour me parler, parce que j'adore la licence depuis les débuts, hein, ça date quand même, Just Cause 4. Mais là, ça m'a pas parlé. Je sais pas. Alors, est-ce que ça nous ramène pas aussi à une conception un peu vieillissante de l'open world de l'époque, qui était vraiment sur du fun? Est-ce que c'est peut-être plus ce que j'attends aujourd'hui. Ça m'a moins parlé, ce Just Cause 4.
Et surtout, qu'est-ce que ça peut amener par rapport au 3?
C'est ça. Enfin, le 3 était déjà dantesque et moi, je m'étais bien amusé dessus. Mais là, j'avoue que le 4, les images qu'on a vues, ça m'a pas...
Mais c'est ça. En fait, après avoir fait le 3 complètement over the top...
Qui poussait la formule au maximum.
Over the top. Enfin, du coup, on tombe un peu dans le grand guignol, ce qui était assumé. Mais dans le grand guignol, est-ce que ça devient pas une faute de goût?
Ne sous-estimez pas ce genre de jeu, parce qu'on a tous joué à Saints Row 4 avec plaisir.
C'est vrai, tu as raison.
Non, mais c'est pour ça. Non, mais voilà, ça m'a pas bouleversé.
Corentin.
Moi, je voulais parler donc jeu OSEF, hein, Destiny 3 par BioWare et Electronic Arts. Donc, non, bien sûr, c'est en thème, mais voilà, on s'en fout quoi. Enfin, c'est
OSEF, mais
des les mecs, ok, alors ils avaient un univers qui donnait un peu envie au départ avec la première cinématique qui avait été présentée lors du dernier E3. Là, on est encore dans cet univers là pour nous présenter des innovations de gameplay incroyables, comme par exemple 4 quatre tenues dingues qui donnent des classes jamais vues auparavant, comme le ranger, le sorcier, le soigneur et le tank. Voilà, donc bon, typiquement, on s'ennuie, il y a aucune patate. Non, c'est-à-dire tu tires sur des ennemis pour te dire que t'as fait des dégâts, tu mets des chiffres, ce qui est un aveu d'échec hallucinant. Ok, c'est un style de jeu, je troll de manière évidente, mais c'est le cas avec moi. Est-ce qu'on peut arrêter avec ces conférences, avec ces exemples de gameplay où on fait semblant de parler les uns les autres comme si on était une bande de potes où ça
s'aligne. Ah oui, ça aligne.
Genre, on est quatre joueurs aux quatre coins de la ville et tout. Et fait, est-ce que tu peux prendre cet ennemi? Pas de problème. Enfin, genre, ça n'arrive pas, ce genre de choses. C'est pas vrai, c'est dans des sitcoms, grand max. Voilà, mais il continue à le faire. Il n'y a pas que Anthem qui l'a fait, il y a d'autres jeux qui l'ont fait aussi. Ça va être massif, ça va être pour les Américains et on va s'ennuyer, on va dire oui, bah c'est bien, c'est joli et puis voilà.
Bon, moi peut-être que ce sera bien, mais alors dans la catégorie OSEF, bon, il y avait Gears 5 hein, dont on a parlé, mais bon, voilà, il est tellement OSEF que, enfin bref. Devil May Cry 5 qui pour le coup, je sais pas, toi t'es un spécialiste de Bayonetta, donc t'es peut-être plus proche de ce genre de truc.
Fun fact, j'adore Bayonetta, j'ai jamais joué à Devil May Cry de ma vie.
Ouais. Mais là, on sent qu'ils essayent de revenir, voilà, de récupérer un peu ce type de beat'em.
Alors, j'ai pas trop suivi. C'est Devil May Cry 5, mais ouais. Est-ce qu'il fait suite au DMC ou est-ce qu'il fait suite au 4?
Eh ben. Voilà. Joseph. J'en sais rien. Et je t'avoue que ça m'a pas. Alors effectivement, moi dans les trucs qui m'ont pas trop parlé, Anthem, Just Cause 4, pareil, c'était un peu ça. Et puis voilà. Bah, je pense qu'on a quand même un peu fait le tour. Hein. On a un peu fait le tour, on a un peu fait long.
Juste Forza Horizon 4 en Angleterre, cool. Forza Horizon, c'est toujours cool. Voilà.
Oui, Forza Horizon, c'est toujours cool.
Avec
c'est
les
pas
saisons
cool.
Dynamiques, tout ça. Ce qu'on a...
Et bien voilà, c'était cette E3 2018, j'adore ce côté café du commerce, où peut-être que ça vous...
On peut faire un dernier truc, qui c'est qui a gagné l'E3 cette année?
Bon, on l'a dit, c'est Cyberpunk.
C'est vrai, mais c'est Microsoft.
C'est Maniteur.
Voilà. Et vous pouvez. On attend hein, vos commentaires, vos idées. Ça se trouve, on a raté des trucs incontournables. Dites-le nous dans les commentaires, dans les forums officiels de Silence on Joue. Et on va terminer cette émission avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Patrick.
Bah, entre deux parties de vampires, ces jours-ci, je me suis replongé dans mes grands classiques de films de vampires des années 80, qui est quand même la décennie qu'il faut absolument... je me suis remis deux grands classiques que j'adore, Lost Boys et Fright Night.
Ah,
et, bon, c'est des vrais grands classiques des années 80, à la fois comédie et en même temps horreur, et ça, on savait très bien faire ça à l'époque. Et c'est marrant, c'est quand on regarde les titres français de ces films, c'est qu'on voit le delta...
Génération perdue
et vampire, vous avez dit vampire. Ouais. C'est marrant de te dire qu'à l'époque, on pouvait vraiment s'amuser sur les, tu vois, sur les versions françaises des titres même des films. Mais voilà, c'est deux grands classiques dans des genres assez différent hein, parce que vraiment l'un est vraiment comédie, l'autre est plus un petit peu plus trash, mais vraiment deux grands classiques, Lost Boys et Fright Night. Et bon, voilà, c'est vraiment deux incontournables du film de vampire des années 80, une décennie où on a un peu dépoussiéré le mythe du vampire hein, qui était un peu vieillissant. Et c'est vrai que c'est des films qui ont contribué à remettre le vampire dans le monde quotidien d'aujourd'hui, lui redonner un petit coup de jeune, et c'est vraiment deux classiques à ne pas louper.
Quentin.
Mais j'ai le temps de rien, Erwan. Arrête de me poser des questions. Attends, tu crois qu'entre Silence on Joue, le 3 et les croissants, j'ai le temps de faire autre chose, moi? Non. Bon, en plus, non, j'ai autre chose qui me prend beaucoup de temps. Et comme la fois où, je sais plus, c'était Marie Kala, je crois qu'il avait parlé de sa soupe, je sais pas quoi. Bon, moi, je révise mon japonais, d'accord? Parce que j'ai un examen qui arrive dans pas longtemps. Je stresse assez comme
pas,
ça.
T'énerve pas.
J'ai le temps de rien, Erwan.
Reste calme.
Oui, j'apprends le jap. Ça fait 3 ans maintenant. C'est passionnant, mais c'est aussi beaucoup de boulot. Et apprendre une langue, de toute façon, c'est toujours beaucoup de boulot.
Comment on dit silence on joue en japonais?
J'y réfléchis, mais c'est un peu compliqué parce que pour dire silence, ils disent c'est bruyant, donc tu vois, c'est un peu l'inverse. Quand tu dis par exemple, tu dis chute à quelqu'un, tu dis tais-toi, ta gueule, tu dis urusai, qui veut dire tu es bruyant, c'est littéralement bruyant, tu es bruyant, donc c'est bizarre. Je chercherai si tu veux, je te le dirai. Mais voilà, je révise donc mes kanji, c'est du boulot, je révise ma grammaire, c'est du boulot. J'ai un examen qui arrive à la fin du mois, début du mois prochain, et c'est pas comme si j'avais que ça à faire. Et en plus, il y a le 3, et en plus, je dors plus, et de moi, Erwan, j'en peux plus. Voilà. Si vous voulez, Maison de la Culture du Japon à Paris, ils font des cours pas trop chers et c'est parfait pour les vies d'adultes, c'est-à-dire que c'est une fois par semaine, voilà. Donc c'est pas mal si vous avez pas trop de temps à consacrer à ça dans votre vie.
Moi, je vous conseille la lecture du bouquin de Agnès Rousseau et Jacques Testard. Jacques Testard, c'est Monsieur Bébé Éprouvette, qui ont fait le machin suicidaire des transhumanistes. Hein, voilà, bon, c'est un bouquin sur le transhumanisme, au péril de l'humain. Voilà, ça s'appelle. Et c'est sur l'idéologie transhumaniste. C'est une analyse assez violente, assez rentre-dedans par rapport à cette idéologie qui prétend nous faire vaincre la mort dans quelques dizaines d'années ou nous mettre des choses dans le corps, des yeux cybernétiques et des choses comme ça. C'est de la sous-science-fiction, mais qui finalement n'est que la prolongation idéologique de l'ultra-capitalisme. Et c'est vraiment, vraiment passionnant. Un peu flippant aussi, parce qu'en fait, on sort du bouquin en se disant, mais on allait déjà crever à cause du réchauffement climatique, on allait déjà crever à cause des guerres, à cause du nucléaire, à cause de machins comme ça. Et en plus, on va crever à cause des transhumanistes. C'est un peu déprimant.
C'est festif.
Mais c'est quand même bien. Et je pense que c'est... il faut que les gens aient une réflexion par rapport à ce type d'idéologie. C'est super important. Et voilà, c'est un bon livre pour aborder le sujet.
Je tente un Shizukani Asobi Macho pour Silence on joue. Voilà.
Merci.
Donc, il y a que les auditeurs japonais me disent, enfin, japonisants ou japonophiles me disent ce qu'ils en pensent. Peut-être qu'ils auront une meilleure traduction. J'ai trouvé que ça en une minute. Voilà.
Mais merci. C'est cool. Merci, Corentin. Allez, on se retrouve. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine ici même sur les internets et sur libération.fr. Ciao.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.